When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, bienvenue dans un bon moment, on discutait tranquillement des mangas, j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de mon pote Navo, comment
c'est
ça va
moi.
Navo
bah, ça va super et toi?
Et super, je suis très content, je suis avec la personne la plus drôle de France et Thomas N. Gijol qui est là aussi, merci beaucoup d'être là. Oh là là, Thomas. Oh, j'ai perdu Thomas.
Bah, j'ai failli y croire.
Il a dit ça part maintenant.
Moi je me suis dit merde, c'est gentil, il fait un accueil élogieux. Je suis à la fin, il y a un tacle, quoi, par
qui derrière. Qui est la personne la plus drôle du monde. Je n'ai pas fini de parler.
On essaye de faire humblement son métier.
Je suis avec Thomas Gijol et Barbara Biancardini. Comment ça va?
Ça va très bien.
Ouais, vous venez nous voir déjà. Bon, grand plaisir déjà de venir nous voir. Mais vous signez un programme court sur Canal+, là, ensemble, que vous co-réalisez.
Complètement.
Ouais. Co-écrit aussi.
Co-écrit, ouais. L'autre, elle veut ça.
Non, mais c'est pas que
tu vas te détendre.
C'est toi qui es drôle.
On a peut-être une heure et quelques d'émissions. Tu as besoin tout de suite de dire. D'ailleurs, on va le déposer dès demain. Parce que je suis pas sûr de toi.
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle
Pour 1 euro, j'écoute vos problèmes.
D'accord.
Voilà. C'est un petit programme très simple qui raconte la vie d'une chômeuse. C'est comme ça que j'imagine. Non, c'est une chose. En fait, attends, on va repartir au départ.
Si tu sais pas, Barbara, elle peut nous dire.
Barbara, peut nous dire. Barbara, elle a l'air.
Justifie ta SACEM.
Eh ben, c'est une jeune femme.
Ok, chômeuse.
Voilà. Peut-être étudiante, on ne sait pas exactement.
Chômeuse, c'est vrai qu'on est à l'ère du féminisme, mais elle est chômeuse et c'est
pas
très grave.
Elle est jeune, peut-être qu'elle a encore sa bourse. Et
vous la connaissez ou vous l'avez lu le programme?
Bah on l'a.
C'est vous embrouillez genre.
Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible?
Elle a pris vie par elle-même.
On l'a fait dans la douleur. Beaucoup d'embrouilles familiales autour de ce programme. Vas-y, bah dis le programme auquel t'as pensé. Parce que c'était pas la vision que j'avais au départ. Vas-y.
Qui s'est posée dans la rue en se disant que elle pouvait écouter les problèmes des gens, c'était que ça être psy.
Exactement. C'est une sorte de psy de rue en fait.
Voilà. Sans aucune formation.
Sans aucune formation, au même titre que la rue n'a aucune formation pour délivrer et déverser ses problèmes.
Et ses conseils.
Et
ses dangereux conseils de la rue.
Et donc, quoi, aucune fois, formation. C'est un nouveau personnage qui se présente à elle et qui lui parle de ses soucis.
Exactement.
Et elle donne des conseils ou juste elle est une oreille attentive et...
Elle est plus dans le cadre d'une oreille attentive que de donner des conseils, parce qu'elle-même, l'histoire qu'on s'était dit, c'est qu'elle est... On ne sait pas si elle est en formation, si elle est extrêmement gentille et bienveillante, mais elle a envie d'aider cette société qui va mal. Donc, elle est plus une écoute bienveillante à tous ces gens qui ont des problèmes et qui lui délivrent.
C'est bien ça, Barbara? On est d'accord?
Ouais. Ça va.
Ça va.
Moi, je vérifie maintenant tout le temps.
Moyen.
Dès qu'il va dire un truc maintenant, je vais te demander si c'est vrai ou pas. Alors,
okay.
Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que j'aimerais qu'on le dise dès le début de l'émission.
Ouais.
Comment vous vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés. Alors on va tout de suite dire les choses dans l'ordre parce que sinon ça va être compliqué. Barbara est ce qu'on appelle vulgairement ma belle-fille et ce qu'on dit d'un point de vue plus familial ma fille. Voilà. Donc on s'est rencontrés via sa mère.
Parce que c'est non, on a une personne en commun.
Non mais c'est pour ça que je voulais dire ça avant parce que. Déjà, il dit, qu'est-ce que cette émission dégueulasse, on ne comprend rien du tout. Donc, Barbara est ce qu'on appelle donc ma belle-fille, mais c'est vrai que le terme est bizarre.
C'est ta fille.
Parce que c'est ma fille, parce qu'en plus, on a une grande fratrie, qu'elle a trois sœurs. Barbara fait quand même l'aînée d'une fratrie de quatre sœurs, et c'est l'aînée.
Ouais.
Donc, quand même, c'est au-delà de ce qu'elle représente professionnellement, affectivement et familièrement, elle a un rôle et un poids.
Et une charge mentale.
Et une charge déterminante.
C'est ta préférée, quoi.
Bah, c'est pas forcément. Elle a une responsabilité. Je sais pas si c'est toujours un cadeau, parce que vous connaissez les séries comme Malcolm et autres. Elle va peut-être finir en Allemagne.
C'est Francis.
Voilà, c'est Francis. Voilà. Ouais. Tu vas loin de tout et dire, c'est bon, appelez-moi quand j'ai des problèmes. Après, maman, ils m'ont fatigué.
Et donc, on assiste vraiment à la naissance d'une réalisatrice, là.
Avec le film qu'on a fait avant, quand même, aussi.
Oui, beaucoup. Fraté.
Fraté.
Oui, d'accord. Là, tu l'avais co-réalisé aussi.
Avec ma mère.
Avec ta mère, d'accord. Voilà. Là, c'est vraiment, clairement...
Ça bosse en famille.
Ouais.
Ils te payent, quand même, ces gens.
Oui, ils t'ont fait un truc, genre, t'inquiète.
Bah, c'est toi, oui, c'est nous, oui, c'est pareil.
Je touche un peu d'argent.
Okay. Un petit peu.
Est-ce que tu dois. Ils te donnent de l'argent ou est-ce qu'ils disent non, mais t'as besoin de combien? Parce que voilà, tu veux sortir, l'argent de poche, on te donne pas, au moment où t'as besoin.
C'est ça, putain. C'est le meilleur maquillage. Bon, t'as besoin de combien? Je veux pas que tu m'apprennes à. Enfin, c'est la fameuse expression, j'ai pas besoin de ton. Je ne veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Ouais. Voilà, ça m'a guidé toute ma vie. Bref.
Donc réalisatrice.
Ouais.
Tu as une formation à ce niveau-là ou tu t'es lancée parce que justement tu as des influences autour de toi artistiques en permanence?
Je pense que ça joue. Mm-hmm. Mais puisque depuis que j'ai 10-11 ans, je veux être réalisatrice.
Waouh, t'as le déclic?
Je sais pas si c'est un déclic. J'ai vraiment le souvenir d'arriver au collège en me disant ah non, moi je veux être réalisatrice, je veux faire ça, je veux faire un bac L et tout.
C'est génial.
Et après j'ai fait quoi? J'ai fait un bac avec spécialité théâtre.
Ouais.
Du coup, j'ai étudié la mise en scène quand même beaucoup, la direction d'acteur et tout. Et je me suis formée en assistante réalisatrice, ce que je fais toujours aussi.
Un peu sur les tournages, un peu sur Black Snake.
Sur Black Snake, ouais. Mon premier tournage, où j'ai tout fait.
Là, vraiment, t'as tout appris.
Non, j'ai fait, mais c'est ça qui forme. J'ai fait du making-of, j'ai fait assistante personnelle de Edouard Baird.
De ta petite sœur aussi.
Je me suis occupée de ma petite sœur.
Elle s'occupait aussi de sa sœur.
J'ai fait du casting.
C'est vrai.
J'ai appris un acteur à parler français pour sa réplique.
C'est vrai.
Franchement, c'était super. Et très vite, dans leurs films ou avec mes potes qui font des clips aussi, des pubs, je me suis fait première assistante réelle.
Mais c'est vrai que ce qui est bien avec sa génération, en plus, pour les avoir vus grandir et donc aussi évoluer, c'est qu'ils sont, tous à tout, en fait. Et ils sont assez passionnés, en fait. C'est assez étonnant de voir... Elle a plein de potes, maintenant, réal, des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses, je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, ils
touchent à tout.
Ils sont créatifs, quoi. Et puis, ils sont investis. Et puis, ils sont plus... Nous, il y avait un côté l'aventure, en fait. Je ne sais pas comment dire. On était un peu des exceptions, si on peut dire, un peu générationnellement, un peu dans notre groupe d'amis ou nos microcosmes, où voilà, chacun a nos parcours.
Oui, tu rentrais chez toi, tes potes, ils faisaient rien de tout ça, quoi.
Voilà, c'est ça.
Tu faisais les potes après coup.
Exactement. J'ai au théâtre, quand j'arrivais au foot, quoi? Parle-nous de Zidane, qu'est-ce que tu fais? Bref, et du coup...
Zidane, c'est un footballeur.
De notre époque.
Donc, du coup, voilà, ces jeunes-là, ils sont quand même... Ils vivent dans une ambiance un peu créative, un peu et professionnelle. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est que c'est pas des doux rêveurs on a papa ou maman qui voilà.
Je fais un court métrage.
Exactement. Il y a un truc plus. Il y a un truc concret qui est assez impressionnant à observer de loin.
Mais alors, excuse-moi, mais 10-11 ans, tu dis je veux être réel. Le déclic, c'est tu te rappelles absolument pas du déclic. Tu dis comme ça, t'as popé l'idée.
Non, après ma mère et tout son entourage dans ce milieu. Donc, je pense que pour moi, c'est les métiers normaux. Il y a réal, il y a producteur. Enfin, je pense que c'est un peu les seuls métiers que je vois autour de moi.
Assistant dentaire, tout le monde aurait pété un plomb. Comment t'as su? C'est quoi le déclic?
C'était plutôt sage. Ouais. Mais,
il y a une œuvre qui t'a marqué à cet âge-là, à peu près. Un vrai film.
Lui, il veut un déclic. Tant que tu lui auras pas donné un déclic, donnes un déclic. T'as compris? Invente un truc, n'importe quoi. Mais donne-lui un déclic, sinon il va la poser 800 fois la question.
Est-ce que t'as eu un déclic alors?
Voilà, c'est quoi le déclic? Le déclic.
Il y a un film. Je sais pas, vas-y, dis un film, c'était un déclic, mais il y a un film, tu casses la tête avec ça, putain. Vas-y, dis.
Non, elle l'a pas justement, elle dit, c'est pas un déclic.
J'ai pas de déclic.
Non, je dis pas que c'est un déclic, mais t'en parlais beaucoup.
Ah, il y avait un film que t'as adoré.
Il y a plein de films que j'adore. Oui, mais...
En fait, c'est une émission, on partage pas mal de trucs, mal de parcours, et en fait, et les gens vont regarder après. on est prescripteurs.
Oui, il me fait des devinettes.
Je fais pas des devinettes, je dis simplement qu'il y a un film dont tu parlais beaucoup jeune.
Donne la première lettre.
Ouais, viens, fais une devinette. Aide-nous.
Ok.
Je suis pressé. On va
faire un complicité avec eux. Ouais. W. Ouais,
super.
Wolverine.
Whiplash. C'est bien pour le cinéma.
Whiplash.
Whiplash.
Non, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Elle était un peu plus grande en plus.
Whiplash, c'est génial.
Non. W-E. Plus loin.
Plus loin.
We are.
Ah, c'est we, quelque chose.
Ouais. We need to talk about Kevin.
Voilà.
C'est maman qui en parle
mais
beaucoup de ce film.
Mais c'est toi qui en parle.
Mais n'importe quoi.
La preuve qu'elle l'adore, elle l'a trouvé. Mais
j'adore ce rapport.
Mais d'un coup, quoi.
Non, mais j'adore.
Mais t'as vraiment, t'as dit W, parle, E, espace,
mais c'est
N,
maman
E,
qui parle.
D, je vois toujours pas, continue.
Kevin
D, A. Ça se termine en Kevin.
Mais si, je t'en parlais beaucoup de ce film. Tu t'en rendais pas compte. Il t'en parlait beaucoup.
Mais après, je sais pas. Si c'était à 3 ans, c'est normal que.
C'est un peu traumatisant.
Non, c'est un peu jeune. Mais non, je sais pas en plus à quel âge ça correspondait, mais tu n'en parlais beaucoup.
Non, mais en tout cas, je pense pas avoir un déclic, mais c'est le métier qui m'attirait quand j'étais sur les tournages.
Et c'est quoi qui t'attirait? C'est quoi
Bah, j'aimais bien ce côté où tu t'entouré de plein de gens, tu décides de plein de trucs, tu donnes un point de vue. Enfin, ça, je parle avec mon point de vue de quand j'ai 11 ans, parce qu'après, on comprend que c'est encore plus compliqué que ça.
Ouais.
Que c'est à peu près ça, mais en beaucoup plus chiant.
D'être un peu la chef d'orchestre pour aller au bout d'une œuvre, la capitaine d'un bateau.
Et ça, j'aime bien. Après, même en assistante réelle, c'est quelque chose que j'ai adoré, être travailler tout le temps avec des gens. Quand je suis toute seule, j'aime pas trop.
Mais c'est vraiment un travail d'équipe,
ouais.
Le bateau.
C'est la meilleure assistante réelle sur Paris, Barbara, clairement.
Et en réel, par contre
Non, vu qu'on parlait d'assistante réel.
Parce qu'avant, on parlait de réel.
On va y arriver, d'avant.
Il a peur de se faire détrôner. Il a très, très peur de
se
faire détrôner.
Moi, je suis là pour fâcher les gens. Donc, du coup, tu as appris à maîtriser le silence, s'il vous plaît, qui est à la fois ferme, mais pas méchant.
Mais j'ai de la chance parce que j'ai une voix grave.
Tu arrives à dire un silence qui impose le silence, mais sans que personne se dise pourquoi il nous crie dessus.
Ouais.
Tu le maîtrises, ça y est.
Ça, normalement, je le maîtrise.
Ok. Peut-être tu nous le feras un moment. Si
peut-être.
On parle trop.
Ouais.
À un moment, Thomas va trop parler, comme d'hab. Il faudra lui lancer un silence. Et en tant que bon comédien, il va
se rigidifier.
Et l'impulsion du programme court, il venait de toi ou de Thomas?
De Thomas.
Mais en fait, la phrase me faisait rire pour un euro, j'écoute vos problèmes. Parce qu'il faut savoir que ça part d'un vrai SDF new-yorkais qui avait un carton au sol. Et en bon américain, il a dit... Je vais peut-être crever, mais je vais essayer de gratter mon dernier dollar. Et il y avait marqué vraiment sur un carton, for $1, allez, c'est un du problème.
D'accord.
Ouais, mon frère m'a dit ça, ouais. Mon cousin, mon frère, je ne sais plus très bien. Et du coup, ça m'était resté très jeune dans la tête, ce truc-là. Et c'est vrai que c'était ASDF, je trouvais ça beaucoup trop cynique, en fait. Et puis l'époque avançait, puis je me dis, putain, cette phrase, il faut faire un truc avec. Et c'est comme ça, en fait, où j'ai dit, ouais, psy, quoi, vu qu'on... Dans l'air du temps, on parle un peu plus de ces choses-là. Je me suis dit, tiens, ça match bien avec l'époque, ça match bien. Et puis, quand j'ai dit ça, bizarrement, en plus, ce n'était pas une volonté de le faire l'année dernière. Et on parlait avec Canal de projet XY. Oui, tu veux faire quoi cette année? Vu que j'étais sur scène, je dis sincèrement, c'est un peu dur. Voilà. Mais j'ai dit, j'ai ce truc-là en tête. Peut-être que ça peut être pas trop lourd à faire et marrant. Et dès que j'ai dit le mot, ils ont fait. C'est super. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Un euro, j'écoute vos problèmes. Ouais, ils ont dit, c'est marrant.
Alors, c'est une fiction ou c'est un peu des vrais problèmes de gens dans la rue?
C'est fictionné. C'est fictionné.
Totalement fictionné, ok.
Totalement d'accord. Fictionné. Non, on n'a pas pris. Ce serait glauque.
C'est, bah justement, c'est peut-être un striptease, tu vois. Un peu.
Ouais, mais bon, la vie est déjà trop compliquée.
On préfère faire semblant que ça va mal. On va pas aller voir des gars qui vont vraiment mal.
T'as BFM, t'as tout ce qu'il faut.
Du coup, d'un point de vue.
Non, et puis, elle écoute des personnages où les curseurs, ils sont un peu poussés dans chaque type.
Oui, complètement.
D'un point de vue du casting, du coup, c'est un casting hyper grand parce qu'à chaque épisode, c'est une nouvelle personne.
Non,
il y a des gens qui reviennent.
C'est des personnages qui tournent.
Qui tournent.
Ah, ouais. Ça fait comme un zapping, en fait.
Pour le coup,
ok, il y en a plusieurs par épisode.
Ouais. Exactement. Okay. Et pour le coup, tu as des thèmes différents. Et puis, tu as des comédiens qui sont récurrents, d'autres plus connus que d'autres. Moins connu aussi, forcément.
Moyen connu aussi.
Moyen connu, en développement, en apprentissage. non, mais il y a des trucs. Enfin, qui est-ce que je pourrais citer en référent
Toi, tu joues dedans?
Non, je ne joue pas dedans. Je n'arrivais pas à me projeter, en fait. J'aurais...
Tu n'as plus de problème, toi, c'est pour ça que tu n'as rien à...
Ah si, j'en ai. Mais moi, il me faudra plus d'un programme court pour toi.
Tu payes bien plus qu'un euro.
Tout ce qui est, il faut bien plus qu'un euro. Mais non, il y a Redouane Bougueraba qui est dedans. Il y a
Anaïd.
Il y a Anaïd Rozam qui est la psy. Très important.
Elle est exceptionnelle, Anaïd. Voilà. Anaïd. Très, très bonne actrice.
Le personnage central, Benjamin Tranier. On a...
Ah, du coup, ils incarnent différents personnages ?
Ils incarnent des personnages.
Non, ils incarnent toujours le
toujours
même.
Le même okay.
Toujours le même, ouais, toujours. Ouais. En fait, c'est des personnages qui ne sont pas très loin. On a pensé au casting après les personnages, les typos déjà, puis on voyait qu'ils rentraient bien dans, dans la case, tu vois. Et je vais être obligé de citer,
tu
en tout cas... Oui,
tu veux que je t'aide ?
Vas-y, dis-moi.
Fanny Ruette.
Fanny Ruette, exactement.
Ouais. Pauline et Bertrand, de
Bertrand, Uscla et Pauline Clément.
Clément. Non, c'est bien, mais c'est déjà bien.
Oui, voilà, il y a des gens. Actrices, voilà, mais qui répondent tous à la demande, parce que voilà, c'était pas l'idée, c'était pas de faire une succession de personnes connues entre guillemets, mais ils répondaient bien au profil, et puis surtout eux sont, j'espère en tout cas, bien amusés. En tout cas, nous, quand on a fini le montage, j'ai trouvé que ça rendait bien tout ce qu'ils avaient donné et tout, et je pense que ouais, c'est un programme sans prétention, hein, mais c'est un programme, je dirais, utile. Utile pour la France. Je pense qu'il peut apporter des choses.
Le président, peut-être il va le regarder et du coup, il va bien changer.
Sûr, bien bah sûr. Oui.
Mais attendez, en fait, les gens, ils souffrent. Mais attendez, je n'étais pas au courant.
C'est
toi, il n'est pas au courant.
Bah oui, il a vu Les Misérables, il a dit, mais non, de Dieu. Mais où c'est tout ça, c'est en France?
C'est pas à Paris, quand même.
On va faire quelque chose, là. Ça. Il avait quand même fait, je viens de voir Les Misérables, il a fait officiellement...
Ah, il avait fait ça?
Ouais.
Ah, c'est pas des blagues.
Il a vu le film, il a dit, là, il y a un vrai problème.
Je crois qu'il va falloir qu'on me photographie avec ma veste en cuir en train de parler.
Exactement.
À genoux, comme ça.
Heureusement qu'il n'a pas vu La Cage aux Folles.
Hein. Des millions et des millions de vues, comme ton sketch qui a fait plus de 102 millions de vues.
Recordman
de vues sur...
Joël Lepan.
En Inde.
Le sketch le plus vu en France.
Moi, je sais qu'il y a un truc incroyable qui s'est passé avec ce sketch qui est de l'ordre de tu sais, du comment il s'appelait ce film. Je crois que c'est pas avec toi que j'en parlais déjà.
Ça commence par un W. E.
Non, ça commence par un T en anglais.
The.
The, c'est.
Ah, et Tropic Thunder.
Ah, ok, non, d'accord.
Non, et tu te rappelles du film pour lequel était connu. Comment il s'appelle, Ben Stiller, dans le pays où ils vont...
Zoolander ?
Non, il avait un film complètement pourri qu'il avait foiré. À chaque fois qu'il le voyait, il disait « It's... »
Oui, c'est Sam quelque chose, non ? C'est quand il joue un débile mental. C'est ouais. Ça ou pas dans le film ?
Oui, c'est ça, il joue mal un débile et du coup, le
Jumping
film devient...
Jack devient... quelque chose. C'est un nom
j'ai oublié. Il devient iconique là-bas. Et du coup, les
mecs... dans Tropic Thunder, tu veux dire ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a un phénomène comme ça dans Joël Lepan.
Simple Jack, non ?
Simple Jack, exactement. Et je pense que si je vais en Inde, les gens... It's Joël Lepan, Joël. Et du coup, ils vont me mettre à poil et...
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce sketch ? Parce que vraiment, le
Alors,
sketch...
Alors déjà, on parle de quel sketch ?
C'est un film qui s'appelle... C'est un sketch qui s'appelle Joël Lepan.
Joël Lepan, qui est une métaphore du pouvoir. Joël, qui était... C'est un sketch où je joue un président, un boss de maison de disques. Qui reçoit une petite chanteuse.
C'est dans Selon Thomas ?
Voilà.
Ah oui, je l'ai vu dans Selon Thomas,
voilà,
je pense.
Pleine d'avenir, et qui, au fur et à mesure de la visite de la fille, a un peu chaud. Et puis, commence doucement à enlever quelques petits vêtements, mais dans la chaleur, pas dans rien d'autre, quoi.
Il réapparaît pas, d'ailleurs, à l'école, non ?
Il réapparaît à l'école, mais...
Il aime bien se dessaper.
Voilà,
il a très chaud.
Ouais, ça... Attends, du coup, ça connecte à moi. Est-ce que je me dessaper au fond de moi, toujours propre?
Bah, apparemment, t'es en slip. Hein, les programmes courts.
Donc, même pas, en plus.
Non, mais en tout cas, non. Mais Joël, voilà, c'était donc ce personnage-là qui... Non, mais c'est la rencontre de deux mondes, quoi, du port et du pouvoir. Je trouve que c'est bien. Parce que ça va souvent ensemble, bizarrement, d'ailleurs. Sous d'autres formes. Même si là, c'est un peu caricatural et comique, le pouvoir ne fait jamais bon ménage.
Et ce sketch a fait 100 millions de vues.
C'est normal. Enfin, moi, je n'ai pas été surpris.
Il faut mettre la moindre des choses.
Merci,
Navo. Il y a Thomas qui se déshabille.
Voilà, déjà. Il y a une proposition. Non, mais ce qui est... Toi, tu es à l'aise avec ton corps, toi ?
Oh, ouais. Oh, ouais.
Vas-y, tu te mettras. T'es approuvé.
Mais il fait un peu chaud, là, non ?
Ouais,
il fait un peu chaud.
Tiens-le pas.
Non, mais tu te mets en slip facile, tout
bah,
ça.
Bah ouais, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Par contre, ouais, je suis vachement très école théâtrale.
On y va.
Ouais, on y va.
Oui, non, bref, il s'en bat les couilles.
Oui, c'est vrai. Oui, ça faisait pas.
Il se branle.
Pas, oui.
Il se branle, non, bref. À aucun moment, il a dit, attendez, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Il a dit, ouais, je crois.
Non, c'est important de...
Le personnage comme ça.
Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, voilà, à travers un personnage comme Joël, même si c'est le temps d'un sketch, t'aimes... Enfin, tu vois, tu vas dans des trucs où dans la vie, tu te dis, alors, on va rester pudique et tout. Et là, c'est ça qui est cool, d'ailleurs, dans nos métiers, tout simplement, de laisser une partie de ton cerveau de côté, de partir
Je voulais qu'on fasse un petit jeu.
Ouais.
Ça vous dit un petit jeu ?
Bien sûr.
Ça s'appelle « Mais pourquoi ?» Mais pourquoi on en parle ? Pourquoi cette photo est notable ? Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Il y a des gens qui nous écoutent à l'audio dans cette émission. Qu'est-ce qu'on y voit ?
On y voit que tu l'as retouché. Pardon. Et là, on y voit...
On y voit deux hommes.
C'est Michael Phelps.
On voit un homme torse nu.
Torse nu.
C'est pas en Thaïlande.
C'est pas en Thaïlande.
Ok. Alors, pour l'instant, tout va bien dans cette émission.
Le mec là avec la barbe, c'est un nageur.
C'est un nageur.
C'est Michael Phelps. C'est Michael Phelps.
Ouais, c'est ça.
Il est avec.
Barbara, tu peux poser des questions et vraiment c'est savoir c'est
est-ce
pourquoi.
Est-ce qu'il a sauvé cet enfant de
la
noyade?
Non, il a pas sauvé cet enfant de la noyade.
Avec Billy Crawford.
Il est pas avec Billy Crawford.
Est-ce que cet enfant est connu?
Cet enfant est devenu connu.
Attends, bah,
notamment,
il a
un talent. Ouais, il a un gros, gros talent.
C'est devenu un comédien ?
Non, c'est pas devenu un comédien.
C'est devenu un athlète ?
C'est devenu un athlète.
Asiatique, il doit être un peu philippin, ce garçon, non ?
Peut-être, alors je crois qu'il est américain.
C'est genre celui qui l'aura battu, qui aura battu le record de Phelps un jour ?
Putain, c'est exactement ça.
Ouais, c'est ça, parce que
c'est la photo. Vraiment... Il croise son. C'est en 2008, Joseph Schooling. Croise son
un gamin.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Un gamin ?
Pourquoi ?
Bah, apparemment, les dès que ça sonne un peu asiatique, ça l'éclate d'ouf.
Mais non !
Un grand enfant.
Et c'est important de conserver ça, monsieur Navo.
J'ai pas dit que c'était mal.
Et 8 ans plus tard, il devient nageur professionnel et aux Olympiques, il bat la médaille d'or devant Michael Phelps.
Quelle belle histoire.
Voilà.
Joseph Schooling.
Ouais. Elle est belle cette histoire, non ?
Non, c'est une belle histoire.
Pourquoi ce mec est sur cette photo et que fait-il et pourquoi est-il connu ?
Parce qu'il noue des choses.
Il noue des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on peut décrire un peu la photo ?
Il y en a deux déjà de photos.
Il y a deux.
Il a l'air de nouer une cravate.
C'est un monsieur d'un certain âge.
Ouais.
Et à côté de ça, il fait quoi ?
Il a des câbles pour recharger les batteries.
C'est ça, exactement. Il a des câbles pour démarrer les bagnoles. De... Ouais.
Et il s'apprête à nouer ou à pincer des choses, à nouer sa cravate.
Il y a deux photos, ouais. Il noue une cravate.
Et il s'apprête à nouer sa cravate et une photo où il a des pinces croco.
C'est ça.
Est-ce que c'est un clip ?
C'est pas un clip du tout. Non, c'est une vidéo. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube.
Il apprend aux gens à faire des nœuds ?
Oui.
Il apprend aux gens à faire des
nœuds. Mais c'est pas la réponse complète.
Ah,
il apprend.
T'es pas loin, Barbara.
Il y a une chaîne de tutos de trucs pour les gens qui n'ont pas de papa.
Putain, c'est exactement ça.
Ouais, vous avez préparé.
Je te jure, c'est ça.
Non, c'est ce que je le connais, je me dis. Bah, c'est ça, ça l'a fait chialer.
Ça m'a fait chialer de ouf.
Tous les gamins qui ont pas de papa. Lui, il est là, dit. Alors, fiston, aujourd'hui, la cravate. Allez, aujourd'hui, on se rase.
Ça s'appelle...
Mais c'est violent ce que tu fais, il a pas de papa. Fais-moi votre histoire.
Mais non, c'est la daronne, elle est là, elle est débordée. Elle fait, demande à papa YouTube, là.
Le dadvice.
Pas ton truc, là.
Le dadvice. Et en fait, il n'a pas eu de père, lui, et il a fait une chaîne YouTube pour tous les gens.
Ah, donc ses conseils, ils sont éclatés, en plus. Parce que lui, il avait pas de chaîne YouTube. Il rate à chaque fois, il fait. Mais moi non plus, j'ai pas eu de père. Donc voilà, c'est bon. Je sais pas le faire. Regarde, je m'en suis très bien sorti.
Chaîne YouTube. Ah, putain, ok.
C'est touchant.
Non, c'est bien, ouais. C'est bien. Une chaîne YouTube. Putain, il y a vraiment. Il pense à tout, quoi, sur YouTube.
Mec, pourquoi cette photo est notable ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
Un gros yinche.
C'est un chien noir, une sorte de labrador.
Merkel et Poutine, c'est ça ?
Il y a Merkel, Angela Merkel et Poutine.
Mais elle est fausse, cette photo.
Non, elle est vraie, elle est vraie.
Elle est complètement fausse. Non, c'est moi qui l'ai faite avant-hier. Je t'ai carotte. Et il y a un gros chien noir.
Il y a un chien noir dans un salon. Dans un salon un peu officiel, en théorie.
C'est même une femelle.
Non.
Si,
on voit les tétés. On voit les tétés, ouais. Alors, pourquoi cette photo est notable ?
Alors, ça a l'air d'être une rencontre plutôt officielle.
C'est une rencontre officielle.
On se rencontre.
Tu peux voir leur tête.
Angela Merkel, elle a l'air un peu à l'aise, donc ça doit se passer en Allemagne et pas en Russie, parce qu'ils tremblent un peu plus quand c'est pas dans leur pays.
Quoique non, on dirait un peu qu'elle est pas si à l'aise que ça.
Elle est pas si à l'aise que ça.
Ah oui,
il est plutôt il a lâché une caisse, le chien.
Il a lâché une caisse.
C'est ça ?
Non.
Bah, je sais pas.
C'est genre... la triche.
Non, je croyais. C'est bizarre, votre truc, là. Attends, moi, je... Bon, attends, c'est quoi la question ? Pourquoi cette photo ?
Cette photo est notable ?
Est-ce que c'est parce que le chien appartient à quelqu'un de particulier ?
Le chien appartient à quelqu'un, de toute façon, ça c'est évident.
Oui.
Il n'est pas venu tout seul en bagnole.
Non, mais est-ce qu'il appartient à quelqu'un ? Et c'est ça qui est fou.
Non.
Il appartient ni à,
si.
À Vlad, ni à Angel.
Si.
Moi, je pense que c'est le chien de Vlad.
C'est le chien de Vlad, exactement.
C'est le chien de Vlad, d'accord.
C'est la chaîne de Vlad.
Ou un des chiens de Vlad. Je ne sais pas si c'est son chien, mais.
Il l'a imposé. C'est-à-dire qu'il a dit, non, mais il y a mon chien qui vient, c'est tout.
Alors pourquoi il l'a fait ?
Angela Merkel, elle a dit, je suis allergique, lui, il a dit, va te faire foutre.
Exactement.
Elle ah, dit, j'ai du poutine, ça. J'étais
elle
sûr
est allergique aux chiens.
Elle a dit, j'ai peur des chiens. Ah, et il a dit, bon, on va faire venir un chien. Elle, il a fait rentrer le chien pendant le rendez-vous.
Waouh.
Juste pour la déstabiliser.
Ça, c'est ça se voit sur leur tête.
Ça, c'est l'esprit poutine. Ça.
Elle, elle est tendue et ah, bah, lui, elle est grave ça fait vachement marrer.
Il fait ça,
vu leur tête
ah, non, mais j'ai vu derrière.
Ah, la pauvre.
Il aime tester, Vlad.
Ah, il, bah, là, ah, il a grave testé.
Pourquoi il est comme ça, ce mec?
Je sais pas. Peut-être gentil. Son enfance.
Ouais, aussi, il y a quelque chose. Renseigne. Il a regardé une vidéo de Dad Advice. Là,
peut-être qu'il faut qu'il paye un euro et il va nous expliquer.
Ah bah ça, c'est...
125 et après, qu'est-ce que c'est?
Bah, 125 et après, c'est une association qui a été montée par une femme qui s'appelle Sarah Baruch et qui lutte pour essayer bah, pour les femmes qui subissent des violences conjugales. Mmh. Elle a d'abord écrit un livre qui s'appelle 125 et des milliers. Qui regroupe 125. Bon, 125, déjà, c'est le nombre moyen de femmes qui décèdent en France de féminicide, donc sous le coup de leur conjoint.
Par an.
Par an, en France. Et du coup, elle a fait un livre avec les témoignages, enfin, avec le profil de 125 de ces femmes qui sont décédées ces dernières années, qui ont été écrits par plein de femmes, des actrices, des médecins, n'importe. Et de là, en ce moment, elle mène plein d'actions, notamment une que je produis avec ma mère et qui est réalisée par ma mère, sont des vidéos de témoignages qu'on veut diffuser en novembre. Ce sont des vidéos de témoignages de femmes qui ont vécu des violences conjugales et qui s'en sont sorties. Donc, on essaye d'appuyer ces vidéos sur l'aspect positif, puisque pour l'instant, ça s'appelle « La vie sera belle », pour donner un peu de courage, pour... un peu enlever des stéréotypes où on montre souvent un peu les mêmes classes sociales, donc un peu pauvres. Très souvent, c'est des personnes racisées qu'on va montrer qui subissent ces violences, etc. Alors qu'en fait, ça arrive à tout le monde, aux plus riches, aux plus pauvres, qu'importe l'ethnie et la religion. Donc, on essaie d'avoir le plus de profils différents pour déjà enlever ces stéréotypes qui pèsent sur une tranche de la population et aussi pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Et c'est préventif parce que j'ai plus les chiffres exacts. Je suis très mauvaise dans l'apprentissage des chiffres. Je sais que c'est plus de 50%, donc environ 60% des femmes, le jour où elles décèdent, c'est la première fois qu'elles se sont pris des coups. Et un autre 60%, c'est toujours plus de 50% en tout cas, de ces femmes qui sont décédées, le jour où elles décèdent, c'est le jour où elles ont essayé de partir. Donc ça montre bien l'importance déjà de montrer qu'une relation toxique, c'est pas rien. Qu'entre ton petit copain jaloux et ton petit copain un peu plus jaloux, en fait, ça peut commencer à être sur une pente compliquée. Et de l'importance d'aider ces femmes à partir, parce qu'en fait, c'est le moment où elles se retrouvent le plus en danger. Mais pour ça, il faut qu'elles aient du courage, il faut mettre des choses en place que Sarah Baruch essaye par tous les moyens, avec des gendarmeries, les entreprises, en prévention dans les écoles. Et donc, avec ma mère, Carole Rocher, c'est ce qu'on essaye. On produit ces vidéos, en espérant que ça donnera un peu de... Ça ouvrira un peu le débat ou la réflexion pour les proches aussi, qui parfois ne peuvent pas se rendre compte qu'une amie, une sœur ou quelqu'un de leur famille, en tout cas, subit ça, parce que c'est juste un mec un peu violent. Souvent, c'est des femmes qui... On se dit « Oh, mais elle est trop intelligente pour vivre ça. » Enfin, il y a beaucoup de clichés, en fait, où on ne se rend pas compte que bah, ces femmes, souvent, elles se taisent, elles ne montrent pas, elles cachent au maximum tout ce qui est en train de leur arriver. On pense juste que leur mec, c'est un gros con. Et en fait, ça va plus loin. Donc, on essaye de faire réagir, enfin, voilà, donner des informations un peu aux gens, de donner un peu de tips, on va dire, à ces femmes via le témoignage d'autres femmes qui l'ont vécu, qui s'en sont sorties et qui, bah, la vie, c'est jamais simple. Mais aujourd'hui, en tout cas, elles sont plus dans ce genre de relation. Elles sont souvent mariées avec un autre homme, ça se passe très bien. Elles ont repris foi et elles ont donné.
Donc, c'est possible.
C'est pas facile du tout.
C'est pas facile.
Mais c'est possible.
Donc, c'est plutôt une fenêtre d'espoir aussi qu'on véhicule par ça.
C'est pour ça qu'aussi, il y a besoin de l'aide de l'entourage. C'est pour ça que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de proches qui l'ont vécu, d'avoir des témoignages de ces femmes qui peuvent être des RH de grandes entreprises, qui peuvent vraiment être de tous les milieux, de se rendre compte comment elles se sont senties, comment on ne les a pas écoutées, comment elles se sont tues en fait, auprès de leur entourage, comment elles ont fait pour s'en sortir et qu'aujourd'hui, ça va mieux. Parce que souvent, c'est quand même mieux avec un peu d'aide pour ces personnes-là, même si ça doit partir d'elles le jour où elles partent.
Et pour l'entourage, est-ce que... Alors peut-être que tu n'as pas toutes les infos, mais tu as l'air bien renseigné quand même. Pour l'entourage, est-ce qu'il y a des signes Tu vois, quand tu dis souvent la victime va cacher ce qui lui arrive, va pas en parler, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir où on peut commencer à s'inquiéter et une façon d'approcher la personne pour lui dire si ça va pas
Bah, moi, je suis pas. Enfin, j'accompagne depuis cette année Sarah sur le projet de ses vidéos, donc j'ai pas toute la.
Il y a un endroit où on peut trouver la réponse à ma question
Via, je sais plus à quel point Sarah a mis en ligne des choses. Mais c'est pour ça qu'elle essaye de regrouper au maximum les informations et même que ces vidéos amènent à pouvoir avoir plus d'informations. Mais le truc le plus important que je pourrais relever, dont j'ai parlé avec Sarah et avec toutes ces femmes qu'on a rencontrées, c'est de rester à l'écoute, en fait. Parce qu'à partir du moment où, en fait, mais qu'importe le problème, en fait, à partir du moment où on ne se sent pas à l'écoute, déjà, on a honte. Donc, il faut réussir à...
On ne se sent pas écouté.
À ouvrir la discussion avec ces personnes-là. Et surtout être vigilant en fait sur n'importe quel signe de possessivité, de jalousie, de choses comme ça c'est ça qui peut être aussi trompeur, c'est qu'en fait on se dit ah oui mais bon comme tous les mecs ils sont un peu jaloux, enfin moi aussi je suis un peu jalouse, enfin
on minimise,
essayer de creuser un peu oui mais jaloux mais comment, et puis non il a pas à être jaloux, enfin si t'as rien, enfin la personne n'a pas à être jaloux, il a pas à commencer à surveiller ton téléphone, à faire c'est plein de petits signes comme ça qui sont vraiment la bascule entre un peu de jalousie mignonne à ouais, non, là par contre, faut s'arrêter très vite. Tu sors pas ça. Les personnes à qui on dit le mec qui veut pas que tu fréquentes telle personne, on sait pas pourquoi, qui commence à prendre un contrôle sur différentes facettes de la vie d'une personne et elle-même, elle s'en rend pas compte. Et c'est un peu être à l'écoute en fait pour que cette personne elle puisse aussi en parlant se rendre compte de ce qui va ou ce qui va pas, parce que parfois on banalise, on minimise. Et après, il y a un moment où c'est trop tard dans la relation.
Même si c'est jamais vraiment trop tard et que ça ne peut pas être pour la victime le fait de dire « Bon, de toute façon, je suis dedans maintenant, c'est
oui,
fini. »
Oui, non, ça c'est sûr. Enfin, le trop tard, du coup, c'est les 125. Ouais.
Mais au plus tôt...
Le 125. Bah,
plutôt en tant qu'ami, tu dis « Attends, non, là, c'est pas normal ce qu'il est en train de faire le gars.
»
Au mieux, tu peux prévenir.
En plus, dans tout ça, je pense que c'est un... Je vais pas sortir mon drapeau féministe, mais...
Sors-le. C'est moi chaud, tu veux le mien?
Ouais, c'est mon épée féministe.
Mon épée féministe. après, c'est un peu toujours la même chose d'éduquer vos garçons, éduquer vos filles, de comprendre... Enfin, ça va tellement plus loin quand on parle avec ces femmes-là, on se rend compte que c'est aussi des personnes qui ont... C'est pas pour rien que ces personnes ont accepté de subir ça. On ne va pas commencer à plaindre les bourreaux, mais ce n'est pas n'importe qui non plus qui se met à faire ça. Et souvent, on se rend compte que tout le monde a des choses qui sont brisées en soi, avant, etc. Et surtout, d'apprendre à respecter l'autre. Enfin, c'est un truc, je pense, c'est un peu plus global, dans le sens où nous, là, au point où on en est, c'est essayer de sauver ceux qui sont sur le bord du ravin. Mais si, je pense, tout le monde était un peu mieux éduqué sur l'être humain, d'ailleurs, parce que là, nous, on traite des femmes parce que c'est malheureusement les victimes qui sont les plus nombreuses, mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des relations toxiques et il y a la violence physique, mais la violence psychologique, et même pour ces femmes qui ont subi des violences, le psychologique, parfois, c'est ce qui reste le plus traumatisant après coup. C'est un peu élever les gens à savoir à respecter l'autre, à se faire confiance, à savoir qu'à part rejeter les problèmes, ses propres problèmes sur la personne en face, etc. Je pense que c'est malheureusement des conséquences extrêmes de choses, de petites choses qui sont, de petites graines qui sont plantées tout au long de la vie dans la société, quoi.
Si un entourage, si une personne dit qu'elle a des problèmes dans son couple, qu'elle a un vrai problème dans son couple, qu'elle a une possessivité excessive et tout. Et qu'une personne l'écoute et que 10 fois, la personne lui dit « mais pars, tu devrais partir » et tout, et que la personne ne part pas quand même. Le plus important, c'est de rester et de dire « même si tu ne pars pas, tu peux continuer de me dire que ça ne va pas et je resterai
accessible. »
C'est pas de dire, c'est pas le prendre pour soi, de dire « bon, bah, je lui dis de partir, elle ne part pas, elle est relou, qu'elle ne m'en parle plus. »
Ouais, et ça arrive beaucoup. C'est un agacement de « ah, mais c'est bon. »
Ouais, mais je l'ai déjà dit, elle est toujours avec son gars là, machin.
Ouais, parce que c'est qui tout double. Parce qu'au bout d'un moment, tu dis, écoute, je sais ce que je vais faire, je vais bien lui secouer les puces en lui disant, on sera plus amis si tu restes avec ce mec. Et en fait, elle dit, bon, bah, on n'est plus amis. Et là, en fait, t'as tout perdu. Tu pourras plus soutenir la personne parce que tu.
Et elle s'enferme dans une relation toxique en plus.
Ouais, et souvent, c'est souvent la personne qui, le bourreau, souvent fait de la peine en fait à la victime. Souvent, il va mal. Ouais. Non, mais en vrai, il est gentil, mais
Il fait des efforts.
Ouais, il essaye. Puis lui, il est de toute façon, personne ne me comprend, tout le monde me déteste. Ouais.
Tes amis ne m'aiment pas.
Et donc, en fait, en disant, ouais, mais ton mec, c'est un con, bah, elle dit, ah ouais, putain, c'est vrai que les gens ne le comprennent pas alors qu'il est, il est si gentil, si blessé au fond. Enfin, c'est poussé à un processus psychologique dans lequel ces personnes rentrent parfois. Et c'est sûr que c'est juste essayer d'être là au maximum, à l'écoute au maximum, de rien minimiser. Et aussi de se rendre compte, de manière générale, pour tout le monde, pour soi-même, qu'une relation toxique, c'est pas juste je sais pas, les petits posts Instagram. « Ah, est-ce que t'es dans une relation toxique relou ?»
Non, mais... Relou.
Parce que
parfois, oh, bah celle-là, elle est pas relou. Ah, mais celle-là, elle est relou.
Ouais, voilà, c'est genre « Ah, trop toxique, trop, on s'aime... » Enfin, truc un peu léger, mais que la relation toxique, en fait, elle peut amener à des violences physiques et à quelque chose de très, très grave. Et
un point de non-retour.
Ouais, et un point de non-retour. Mm.
On enchaîne tout de suite.
On va passer avec, à Trilou Trilala.
Bah, c'est dur pour les comiques.
Trouver les tétés. Tu vois les moments de solitude que j'ai à la maison.
Bah ouais.
Hey, vous avez... Ah, pardon, vous étiez sur le projet.
Non, mais du coup, je pose une question. Alors après, à chaque fois, tu as le droit de me dire wow, attends, moi, je produis le truc. ramène la meuf, pose la question. Si c'est le premier coup qui tue, sachant que quand t'appelles, tu peux pas appeler les keufs et dire peut-être il va me taper, là, il m'a mal parlé. Parce que les keufs, en général, on est d'accord, te répondent « On ne peut rien faire tant qu'il ne s'est rien passé. » Dès l'instant où il se passe quelque chose, appelez-nous tout de suite et on intervient. Mmh. Parce que nous, on ne peut pas intervenir dans une embrouille de couple.
Oui,
c'est leur point de vue, c'est une embrouille de couple.
Ouais.
Après, malheureusement...
Du coup, est-ce qu'il y a d'autres... C'est pour ça que je te dis, si tu n'as pas la réponse, est-ce qu'il y a d'autres services sociaux que tu peux appeler au moment où tu te dis « Je commence à subir de la violence psychologique. » Parce que si on attend le coup, on a quand même une chance sur deux que... ils arrivent juste pour constater que la personne
est morte. C'est ça. Et puis même le jour où, quand il y a beaucoup de personnes qui se sont pris des coups, qui sont allées le dire.
Mais je veux dire, au-delà de ça, même si.
Il se passe rien.
Même s'ils essaient de bien faire leur travail, dans bien faire leur travail, il y a qui ne sont pas juges et qui ne peuvent rien constater. Parce que
quand
il vient et qu'il cogne et que le gars il l'ouvre, il ne dit pas j'allais lui en mettre.
Il faut appeler. Ça, c'est un peu quelque chose de.
Mais les Minority Report, c'est le cas.
C'est vrai, mais c'est pour ça que ce serait bien un Minority Report. On n'a pas encore
les malheureusement,
il en manque un, il en faut trois. Et des pré-cog.
Tu lances le truc, le feu, il prend deux. Il a toutes les références. Je vois ce mec, comment tu fais pour ça avec ce mec?
Il adore.
J'adore, mais il a toute la.
Mais donc, je peux demander à Sarah si elle a des noms d'assaut.
À appeler pour dire qu'est-ce que je fais, comment je m'enfuis, où est-ce que je pars, est-ce qu'il y a une assoce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'héberger, parce que souvent c'est aussi, c'est parfois.
Bah, et c'est ça qu'il y a peu en France, je crois que ça existe. J'avoue que je me suis pas. Comme tu l'as très bien dit, produis les vidéos, du coup, parfois je peux aller plus loin que déjà le sujet que je traite dans les vidéos. Mais je pense que Sarah connaît plus. De choses que moi sur ça, mais c'est aussi tout son combat, ce qu'elle essaye d'en mettre en place, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un peu le 125 et après, c'est pour dire justement, il y a des choses à faire avant d'arriver à ce chiffre, il y a plein de... dans les entreprises, à essayer de mettre en place des systèmes dans les entreprises, dans les commissariats, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça n'existe pas énormément.
Ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, dans tout ça, aussi, c'est que il n'y a rien d'en parler d'un point de vue, c'est dans le cadre de l'action, mais d'une action du moins, mais tu sais, d'un point de vue décomplexé, c'est bien aussi. Enfin, décomplexé sans drame, parce qu'en fait, du coup, ça éveille tout le monde à ça, parce qu'en fait, c'est, tu vois, tu parlais des keufs, par exemple, mais sans association ou autre, tu vois, un voisin ou autre, c'est vrai que ça fait un peu délation, hein. Mais en fait, voilà, un cri un jour, deux cris, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le truc le plus horrible qui puisse arriver à chacun d'entre nous, d'avoir été témoin, mais au fond de toi, tu n'as pas osé, ou tu voilà, mais c'est vrai que, tu vois, c'est important, en fait, de parler de ces choses-là à tout le monde, d'un point de vue sociétal, en disant que, en fait, au final, on est tous un peu responsables, parce que si ton voisin, ou ta voix, enfin, bref, ton...
Tes potes aussi.
Voilà, tes potes.
Tes potes mecs, de leur dire, oh, redescends, en fait, arrête de croire que c'est normal.
Exactement, tu vois, exactement, tes potes, ton entourage, si tu assistes ou es témoin d'un truc comme ça, même si t'es pas connecté directement, de faire, on va dire, les gestes ou les démarches qu'il faut, parce que quand on arrive au point de non-retour, comme on l'a dit, et tout, c'est des familles, des vies qui basculent, quoi.
Ou même si tu pressens. Moi, je pense que si tu pressens, parce qu'on a personne aime le conflit, mais si tu pressens un truc chez souvent c'est des gars, un gars que tu connais, il vaut mieux te mini-fâcher 3 secondes avec lui, qui se met « t'es un ouf, jamais je ferais ça », et qu'après, ouais. Il essaie de te le prouver.
Oui, qu'il est en tout cas
qu'il l'est, parce qu'après, il va essayer de te le prouver qu'il est t'es un ouf d'avoir dit ça. Parce que ça se trouve, il vient de te dire, t'es un ouf, jamais je ferais ça. Et si tu ne l'avais pas parlé, il l'aurait fait.
Ouais,
maintenant,
sûr.
Il le fait pas. Tu sais, il va voir ta tête en disant,
bien sûr,
il m'avait dit que j'étais bizarre.
T'as une petite germe qui
Alors souvent, on se dit, attends, si je dis ça, il va mal le prendre, mais il vaut mieux dire, moi, je te le dis en toute amitié, mec, t'es très nerveux. Là, tu parles de ta meuf, c'est bizarre. Fais gaffe.
Ouais, ouais. Mais ça fait partie des évolutions naturelles de nos sociétés, dans le sens où on évolue sur plein de choses et humainement, on s'ouvre à des sujets sur lesquels, c'était tabou à l'époque, mais on n'en parlait vraiment pas. Quoi.
Alors, non, c'est vrai que c'est.
Ça fait partie c'est aujourd'hui.
Vrai problème.
Et ça fait partie des choses sur lesquelles on doit être vigilant et surtout actif, en vrai. Même pas que vigilant, c'est
même
que
ça,
en fait,
oui.
Ça doit faire tout ce qui est lié. Mais il se trouve que moi, c'est vrai qu'en vivant avec 5 femmes, au final, c'est quelque chose qui me touche particulièrement.
Plus tes enfants.
Oui, plus mes enfants.
Tes filles.
Plus mais les 4, enfin, il ne fallait pas le dire, parce que les 4 autres sont pas...
Ah oui, pardon, ce n'est pas des... Oui, c'est pas...
Non, là, c'est...
Voilà. C'est pas légal. J'ai oublié que ce n'était pas légal.
C'est raciste. Je tiens quand même à le dire.
Pourquoi?
Bonne fin. Parce que je ne sais pas si tu aurais fait...
T'es noir.
Tu aurais fait la même blague.
Non, mais il ne voit pas les couleurs.
À Gaspard Proust, tu lui aurais dit ça. À Gaspard Proust, non, dis-moi dans les yeux, tu lui aurais dit ça.
Oui, parce que moi, j'ai 2 meufs déjà.
Ah, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est les Portugais. Ça, c'est encore...
Mais je ne suis pas portugais.
Tu n'es pas portugais? J'ai toujours cru que tu l'étais.
Je suis français, comme toi.
Ah ouais, c'est vrai. Tu m'as bien... Mais les origines.
C'est raciste.
Non, les origines.
C'est du racisme anti-blanc.
Non, d'ailleurs, les femmes, le racisme anti-blanc. Non, mais la culture, c'est... Tu sais qu'il y a un vrai souci avec ça en France. Hein. Les gens ne comprennent pas la différence entre la nationalité, la culture et les origines. Et ça, oui, les gens, ils débattent toujours. Et t'as... Par exemple, quand tu me dis que t'es français comme
moi. Ouais, c'est une blague. Hein. C'est vraiment...
Oui.
On est sur le groupe Canal. Hein.
Je comprends plus rien. Ça y est, on est dans la même averse. J'en ai marre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai sujet sur lequel les gens passent leur temps à s'embrouiller. Sur qu'est-ce qu'être français, ce qui ne veut plus absolument plus rien dire.
Oui, de toute façon, on est culturel. On a la culture japonaise comme la culture américaine, comme la culture de nos parents et la culture française.
Voilà, donc, c'est très.
En plus, à la base, c'était pas un sujet. Je veux dire, on a. Grosso modo, le même âge, à peu près, on vient à peu près du même milieu populaire, de banlieue,
c'est
etc.
C'est MA contre Stein.
Et
c'est
on s'en foutait, il y avait personne qui disait, tu dis, ouais, t'es quoi, toi ? Il disait, moi, je suis vietnamien, et toi, t'es là. Et personne disait, excusez-moi, nous sommes tous français. En fait, c'est devenu une question que personne ne s'était jamais posée. Tu disais en même temps, est-ce que t'es français ? Oui, aussi.
Oui, bien sûr.
Fou, c'était même pas
tu te posais, oui, c'était pas un sujet.
Ils nous imposent des sujets, hein, faut oublier. Vraiment.
Non, mais c'est vrai, bon, après, là,
même quand on veut dire que c'est de la merde ce qu'ils disent, ils nous ont quand même imposé le thème.
Parce qu'en fait, le truc, c'est quand tu commences à justifier un truc que t'as jamais justifié de ta vie.
C'est clair.
C'est là où, dans des débats, des mecs sont tombés dans des puits sans fin. Mais où vous voulez en venir, monsieur ? Oh, merde, j'étais juste venu me parler de mon album de rap.
Tu vois ce que je veux dire.
Voilà, putain de merde. Ah, il y en a beaucoup qui se sont effondrés le samedi soir à la télé en direct sur ces sujets-là. Mais arrêtons là.
En tout cas, merci d'en avoir parlé. Merci de faire ça. C'est vraiment important.
Ça.
Est-ce qu'on passerait pas à un petit jeu pour changer d'atmosphère ?
Bon, on l'a déjà descendu l'atmosphère, mais j'ai bien envie de jouer. Moi,
allez, un petit jeu. On va faire un multi-blind test. Le multi-blind test de Navo.
Ah, ça, c'est un. Ah, il y a un jingle, putain.
Multi-blind test de Navo.
Faites une émission un peu à la cool, mais un petit jingle, quoi.
Thomas, il est fort en plus, sans ça.
T'aimes bien le blind test ?
J'adore.
Ah, bah alors là, mon pote, tu vas être servi.
Je suis très mauvais perdant. Je ne suis pas.
Mais est-ce que t'as déjà fait un multi-blind test qui consiste à écouter 6 morceaux en même temps ?
C'est bon, c'est
ça. Mais il est très geek.
Si c'est Navo, à un moment donné, ça ne peut être qu'un multi-blind test.
C'est conceptuel,
Il faut un petit twist, il faut quelque chose. Donc, je vais lancer 6 morceaux.
En même temps.
En même temps.
Ouais. Quand vous en trouvez un, je l'enlève et ainsi de suite.
Ah ouais, c'est de plus en plus simple. Un blind test dégressif.
Exactement.
Ok.
Comme l'impôt.
Sur ma tête. L'épaule.
Tu peux dire s'il te plaît ?
S'il te plaît, déjà tu mets du bruit.
Il a du mal avec
déjà avec le voisinage. Déjà avec le voisinage, c'est un. J'ai cru entendre un morceau de rap, j'ai cru reconnaître la voix d'un membre du 113. Est-ce qu'il y a un morceau du 113 dans ton truc ?
Eh bien, non.
Oh ! Moi j'ai entendu un morceau de Muse.
Non.
Non plus ?
Non.
Okay, j'ai cru entendre la voix. Bon, ok.
Ok.
Tu peux repartir ? T'as entendu un truc ?
Non.
Okay. Barbara a dit qu'elle aimait bien la chanson française. Donc il y en a pas mal dedans. Tu peux en trouver.
Allez, vas-y.
Ah,
Lève-toi, ouais. Ah ouais, Rosemary. Rose. Marie. Rose
bah, J, ça commence par un J.
Rose.
U.
J. Kevin.
Julie Pietri.
Julie Pietri.
Julie Rosemary, putain, n'importe quoi. Lève-toi, ok. Allez,
are you ready?
Allez. Ready. Est-ce qu'il y a un Stromae?
La groupie du pianiste.
Putain, t'es fort, je savais que tu étais.
Il y a un Stromae.
Il y a un Stromae.
Ouais, je me suis dit ça aussi. Je crois qu'il y a alors en danse.
C'était
moi, ça me panique.
Tous les mêmes?
Ouais.
Ah, ok. Ça
me panique.
Ouais, je comprends.
C'est vrai? Ah ouais, j'imagine, parce que ton attention, elle fait. Oh, j'ai un... Non, ouais, j'en ai un autre.
Donc là, on en a trouvé deux d'un coup. Stromae. Tous les mêmes et la groupie du pianiste. Ok.
Come on, rock.
Nadia.
Et là, il n'en reste plus que deux, ce qui veut dire qu'il faut les deux avant de parler.
Ok.
Si on n'en donne qu'un, on aide potentiellement l'autre.
Ok.
Attends, t'as pas le droit de les donner.
C'est bon. J'ai des deux. Section d'assaut, désolé. Et Ronan Luce, la lettre.
Eh oui, bravo. Il est fort.
Il est très fort. Thomas a gagné. Et je pense qu'il mérite des applaudissements.
C'est un
bravo Thomas d'avoir gagné. Tu as gagné.
Bravo Thomas, le gagnant.
Je peux rentrer
mais
avec
oui, avec plaisir.
Mais quel gagnant, mais quel winner.
Bravo.
Moi, je veux que tu sentes que tu as gagné.
Merci.
Je savais qu'il allait gagner.
C'est fou. W-I-N-N-E-R. Thomas.
C'est vrai que t'en as trouvé beaucoup quand même. Hein. Quasiment tous.
Au final, j'en ai.
Il est venu à me dire un petit Stromae, une petite Nadia. Donc, il en a trouvé
possible. Thomas Gijol, nouveau spectacle.
Ouais, c'est les dernières dates.
Dernière date au Grand Rex.
Absolument.
En décembre.
Absolument.
14 et 15 décembre, je crois.
C'est ça. C'est les dernières dates en parallèle à la tournée.
D'accord. Et le spectacle sortira de toute façon sur MyCanal avant le Grand Rex.
C'est ça. Il est mi-octobre, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais il va être diffusé à partir de mi-octobre. Et là, c'est mes dernières dates.
J'ai l'impression que tu tournes de moins en moins.
Bah là, je tourne beaucoup avec celui-là. Enfin, en tout cas, la save là, que je fais jusqu'à la fin d'année, début 2024, et va être assez intensive.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Assez. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini, j'arrête ce spectacle du monde.
Tu joues en décembre à Paris.
Ouais.
Mais tu continues la tournée en 2024.
Je continue un petit. Je déborde un peu début 2024. Mais ouais, et du coup, c'est. Pas non plus une sorte de nostalgie, mais je sais que ça va être différent après parce que je prends de l'âge, parce que je vais continuer, hein, évidemment, mais parce que je vais faire des choses entre temps, ça va m'amener encore un peu ailleurs dans ma tête. Et je vais faire moins de dates aussi, parce que, comme je disais, je prends de l'âge, j'ai une famille et que j'ai envie d'être un peu plus présent à la maison. Voilà, donc je vais être un peu plus dans des jauges un peu plus grandes, mais plus...
Génial. Moins de dates. T'aimes bien, est-ce que t'aimes bien jouer dans des grandes salles?
Ça a du bon et du...
C'est différent, c'est deux sports.
C'est différent, c'est ça. Donc c'est pour ça que je sais que le prochain, je vais travailler différemment. Enfin, rien de voir en théâtre, sincèrement. Tu vois, c'est agréable.
Tu veux dire en opposition avec un zénith ou
C'est différent, c'est notre énergie. Un zénith, évidemment, tu en as fait.
Ouais, on a fini la tournée. Voilà, on a fait la tournée des zéniths là cette année.
Je pense que c'est génial de faire aussi des zéniths et tout.
C'est une bulle. Mmh. T'es dans une bulle de lumière, t'as une sorte de grosse masse sonore, non, et tu sais pas trop, tu vois pas les gens, et quand ça s'allume, tu fais juste là-bas.
Mais oui, parce que c'est. Ça. Bizarrement, moi j'en avais fait à l'époque, justement, quand on tournait avec Jamel, on faisait des zéniths et tout. Et je me rappelle les premiers rires, alors le temps que tu t'habitues, tu vois, tu fais ton truc, tu dis bon, bah, c'est un fiasco total. Et une seconde après, t'as le rire qui arrive sur toi.
C'est exactement.
Bah oui, je savais bien que ça avait marché.
J'ai jamais douté.
Jamais, évidemment, que j'étais sûr de mon coup. Et voilà, mais la première fois, t'entends, tu dis bon, ok, c'est pété, quoi. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, agréable, zénith, pour tout ce que tu dis, et puis même énergiquement, financièrement, tout est beaucoup plus grand et tout, mais quand même un théâtre, putain.
C'est, 800 places, c'est quand même c'est une chance énorme de jouer. Je souhaite à tous les artistes de jouer dans un théâtre de 800 places.
Voilà, c'est
exceptionnel.
Bah, tu fais ton métier, quoi, avec tout ce que ça compose, l'instant.
Le Fémina, le Sébasto, tout ça, tu te sens au théâtre. C'est quand même des grandes salles.
C'est marrant que
Bourse.
T'as cité ces deux-là.
C'est les deux prefs.
Ah, la Bourse, ouais, mais sincèrement, respect à Lyon, mais Fémina
et Sébasto, c'est
vraiment... Sébastopol.
C'est fou, hein.
Et je crois que c'est Sébastopol qui est juste devant, malheureusement. Même si
après, Lille est devant aussi.
Dans le théâtre.
Bah, tu sais que c'est les dates que tu notes.
Tu les comptes en théâtre, c'est pas des trop grandes salles.
Non, c'est théâtre, théâtre, totalement, totalement.
Oui, donc on peut te retrouver certainement les prochaines fois, ça va être sur des grosses salles comme ça, un peu plus unique.
Et puis c'est des... Après, ce confort-là, tu l'as pas dans toutes les villes, tu l'as pas dans toutes les régions, si je puis dire, entre guillemets, même s'il y a des très belles salles partout
en France.
Mais
c'est vrai que si tu veux une grande salle, ça va être un peu moins...
Mais voilà, tu vois, là, quand je reparle... le féminin, je crois que je l'ai déjà triplé ou doublé, je ne sais plus, vois. Et là, je le refais encore parce que c'est... Bizarrement, ça remplit toujours, ça marche toujours. Et puis
c'est toujours...
Mais pas bizarrement, Thomas. Thomas, ça fait des années que tu travailles pour ça.
Très logiquement.
Merci, les amis. Mais quoi qu'il en soit, c'est que tu ne vas pas entrer dans les pieds. Parce que malgré tout, il peut y avoir... Ah, putain, à tel endroit, ça redouble, mais la salle est tellement pétée, je dis, on va s'arrêter là, c'est bien. On a doublé une fois, voilà. Et là, tu vas, voilà, Sébastopol. Enfin, moi, j'avoue que c'est le nord que je préfère.
Même si Liège, le féminin, c'est super.
Liège,
Bruxelles,
Sébasto, c'est à Lille. Bruxelles, c'est
les gens ne comprennent plus rien à ce qu'on raconte.
Le cirque, c'est pas mal, ouais.
Il y a le Kursaal aussi, je crois que c'est Besançon, il y a le Kursaal dans l'Est, là il y a Dijon, Besançon.
Avec les chevaliers, ouais. Là c'est avec des salles.
Il y a Tours, c'est génial.
Moi, j'essaie d'aller vers les émotions.
C'est pour accrocher.
Non, c'est vrai.
Les grandes salles, eux, ils sont là, ils sont là.
Attends, on a plus 20% à un moment donné sur les 15-25.
Ouais, mais après, je trouve que Jean-Mi, le mec qui accueille, le mec qui est à l'accueil...
Attends, je demande... Je demande deux noix. J'ai une noix.
Ah, plus jamais.
T'as quoi, toi, dans ta loge, toi, d'ailleurs, Kian?
Bah, je suis très déceptif.
Il a la tristesse.
C'est vrai.
Il a la tristesse des premières parties, ça s'appelle. En tant que première partie, ce qu'il a dans sa loge, ça s'appelle la tristesse d'une première partie.
C'est vrai.
Chaque jour, il enlève des trucs. Moi, à un moment, j'étais content, il y avait un peu du jambon, du fromage. Un jour, j'arrive, je fais, mais il est où le jambon, le fromage? Il déconne ou quoi? Il fait, ah, non, j'ai demandé à ce qu'on enlève. Que des fruits secs, frérot.
Putain,
y a pas un net,
on est team fruits secs, toi aussi. Tiens,
ouais, parce que vous êtes des sportifs. Moi, je m'en fous, je fais un quart d'heure.
Enfin, moi, je mets ça sur l'âge.
Non, mais mec, tu reviens de tourner, t'as pris 10 kilos.
Ouais, c'est horrible.
T'es en tournée, normalement.
C'est connerie, moi, je reviens de tourner, j'en ai perdu 10. T'as complètement changé mon régime alimentaire, je suis comme ça. J'ai besoin, moi, de manger.
T'aurais vu ma première tournée, c'était la revanche du pauvre, quoi. Les loges, c'était des pépitos. Mettez-moi des granolas et 4 canettes de coca. Non, du Schweppes, oui, mettez-moi du Schweppes, c'est pas
mal. Je boirais pas, et alors.
Et je partais, j'étais comme ça. Je vous ai bien eu, hein. On dit, Thomas, c'est ton oseille, en fait. Ah bon? Mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai 10 dates avec au moins, je sais pas combien de Schweppes. Donc, du coup, j'ai calmé tout et j'ai 4 cacahuètes et ça va très bien.
Ouais, non, mais voilà. Une banane, un peu de miel.
Voilà.
De quoi faire un peu d'eau chaude, histoire de la gorge.
Du gingembre, du citron.
Bon, exactement.
Voilà. Et puis, pas de saloperie.
Il y a eu un petit courant d'air dans la gare. Voilà, voilà. C'est hyper décevant.
Voilà. Et moi, maintenant, en plus, je te dis, en tournée, je...
J'aimerais te dire une bouteille de Jack.
J'ai essayé de jouer il y a très longtemps. Et je crois que tu étais dans la salle, en plus. Il y a longtemps, au Comedy Club, je crois que j'ai essayé de boire. Et je crois que tu étais là.
Avec le Jack. C'était l'époque où tu jouais avec Fabrice Eboué. Fabrice avait son verre de rhum et tu avais un verre de Jack, je crois.
Moi, j'avais une cup de pimp.
T'avais une cup de pimp. T'arrivais avec ta cup de pimp.
Voilà, mais j'avais de l'eau. Hein. Donc, vu qu'elle était opaque, personne ne savait ce que j'avais. Et je sais qu'une fois, j'ai dit, ah, vas-y, je vais boire. Je pense que ça peut créer un truc. Une catastrophe. Je voyais mes bouches parler et je ne savais pas ce que je disais. C'était nul. Enfin, je n'étais même pas bourré en plus. Tu vois, j'étais juste...
T'es ivre.
Même pas, j'étais à côté. Le spectacle n'a pas été nul, mais je n'étais pas... J'ai pas kiffé.
Tu n'étais pas assez bourré, il fallait plus boire.
Ouais, mais c'est une dynamique, c'est une philosophie d'être bourré. C'est pas genre tu dis aujourd'hui je vais être bourré, puis sur scène je vais être super. J'ai même pas eu l'expérience de la soirée où j'étais bourré. Et
surtout que tu bois pas beaucoup.
Bah oui, mais surtout que je ne bois pas. Donc,
tu
du
bois
coup,
pas.
Du tout. Donc
dis-le pour les jeunes, c'est bien.
C'est important de pas boire.
Tu peux être un artiste et pas boire.
Mais là, on va mettre un lien en dessous, ne buvez pas.
Après, voilà, les artistes ils pensent qu'on est toujours un peu rock'n'roll, un peu genre.
Souvent, je me suis dit quand même que si je me droguais, qu'est-ce qui se passerait?
Et donc, toi, tu as connu la déception de « Ah, je suis allé le voir en tournée, après il est là, il mange des fruits secs, le spectacle est chambé, Après, il sort, il mange une salade tout seul.
Avec un filet de cabillaud.
Non, non, on explique quand même, on dit... Ah, bah non, parce qu'elle est petite. Donc après, on dit à Moussa, qui s'occupe des loges, ou quand je m'occupe de... Avec Moussa aussi, parfois, je m'occupe des loges. Je dis, non, mais pour les petites, c'est bien s'il y a un peu de Kinder Country, Kinder
oui,
Bueno.
Oui, c'est vrai qu'il y en avait.
Et du coup, on rajoute un peu de Kit Kat, un peu de Kinder, du Coca pour les invités qui viennent le voir après, un petit Coca après c'est deux vrai, heures de spectacle.
Attention, mais monsieur, mais attention. Coca, Coca, Coca à volonté.
Il va y avoir du Coca.
Du coup, on gratte un peu pour les invités.
Il n'y a pas de champagne, il n'y a rien, mais pas de Sky.
Oh non, non, pas de Sky, pas de champagne. Non, non, non. C'est vraiment la loge. Quand je viens, c'est très simple. Quoi. C'est la tristesse. On peut le dire. On
mais
est
c'est
pas
ça, dans... mais les stand-upers, vraiment, vous êtes les artistes les moins rock'n'roll.
Mais c'est vrai, c'est, non, mais c'est fou c'est ce que vrai, tu dis. Parce que même quand tu pars en tournée, c'est ça qui est un peu. C'est pour ça qu'un jour, tu vois, il faudrait faire une tournée en commun. Tu sais, des tournées avec peut-être plusieurs artistes.
Moi, j'adore. Trop bonne ambiance.
Peut-être une fois.
Un tour.
Ouais, un tour, histoire de rigoler, d'avoir ce côté un peu le groupe de rock, quoi. Tu vois,
mais
tu
vous
dis...
allez rien, je vous connais, vous allez rien moins... faire. Vous non, allez mais... jouer au Uno.
Vous mais... avez goûté cette mais nouvelle tisane
c'est génial, Uno. Mais ça, c'est génial, Uno. Allez, on fait un Uno.
Mais au moins, on va rire un peu sur la route. Parce que quand même...
Est-ce que dans le bus tour, on peut avoir un potager? Regarde, c'est les sièges du fond. Regardez, les gars, on est d'accord.
Là,
tu pourras te garer. Tu pourras te garer au soleil. Il ça fait un peu serre.
Il a dit au mec de Storm, mais vous allez rien faire. Vous êtes des baltringues. Les stand-upers n'est pas drôle. Mais si on va rigoler, on va. Pour une fois, parce que c'est vrai, je dois avouer que.
On rigole, mais à une heure, on se couche, hein, parce que demain, on a de la route quand même.
Attends, ils kiffent trop en tournée. On arrive surtout, on a de la chance d'être aussi dans des beaux hôtels et tout.
Ouais.
Mais moi, 23h, enfin 23h30, je suis grillé, quoi. J'ai joué pendant 2 heures, je suis grillé.
Oui, c'est normal.
Et il arrive, il se met.
Oui, c'est normal. Regarde. Oui, c'est normal.
On va se mettre dans le petit salon. On va commander des petits vins, des petits trucs. Et puis, il se fait un gros kiff, tranquille.
Et, souvent, tu finis seul, alors, toi, du coup.
Mais non, parce qu'après, il y a des techniciens, des régisseurs. Des gens. C'est eux, mes amis, tu vois. C'est
les
eux qui disent ça.
Les techos.
Tu vois, ils
avec
sont là.
Yann, un jour, qui a la poursuite. Tu vois, qu'est-ce qui se passe là-haut
je sais pas, il est pas arrivé. Je vais régler le truc.
Non, mais ça, je peux plus, mais cool, assumer.
Oui, je sais bien.
La fatigue.
Chambre. Mais en vrai, c'est mieux parce que je pense vraiment que chez les stand-uppers, ceux qui sont un peu rock'n'roll et tout, c'est ceux qui, en fait, ils tombent parce que je pense que t'es stand-upper parce que t'es un peu triste, parce que t'as un peu un truc un peu dur, t'as des failles. Et en fait, les stand-uppers alcooliques,
ils sont rattrapés par
leur
faille.
Ils sont pas rigolos. Ouais. Ils sont pas marrants. Ils pètent des plombs.
Oui.
Ils se mettent minables.
Ou alors c'est Richard Pryor, quoi.
Il a tiré dans une voiture.
C'est
génial, ça, live.
Non, c'est sûr. Mais après, je sais pas.
Le travail de Richard Pryor, qui est disponible d'ailleurs sur, je crois, OCS, est disponible sur MyCanal. Donc, allez voir.
Il y a son travail sur.
Il y a plein de spectacles américains sur OCS.
Ok, d'accord. Oui, sur OCS, absolument.
Mais OCS est disponible sur MyCanal.
Non, mais ça, c'est des dimensions de mecs, comme on dit, bigger than life. C'est beaucoup. En France, on peut pas, on n'est pas rock'n'roll déjà. Si t'es rock'n'roll, la police arrive directement.
À Lille, quand tu joues à Lille, tu te fais une petite exception quand même, t'es de sortir un peu.
Non, j'ai plus.
Il y a notre ami qui a le bar. Il y a un bar. Tu te rappelles le bar Jack Daniel's.
Il est incroyable. Lui.
Dodo Lasomur.
Non, il s'appelle Stéphane.
Je crois qu'il s'appelle Stéphane.
Stéphane, notre ami Stéphane.
C'est sûr, mais si, je pense qu'à l'époque, à d'autres époques, on a dû dire viens quand même, on est à Lille, pas loin du. Comment ça s'appelle le Spotlight?
Pas loin du Spotlight.
C'est pas loin du Spotlight.
Il a un bar.
Je crois, sponsorisé
par une marque d'alcool et du coup.
Il a une espèce d'espace VIP et il est trop à fond dedans. Il est trop content de recevoir le monde entier.
Je crois que ça me parle ce que tu
mais
dis.
Mais oui, c'est
spotlight,
sûr. Tout le monde s'est
ça,
formé
ouais.
là-bas.
Et on allait là-bas. Cool. C'était très cool. Très bon. Jusqu'à 4-5 heures du matin.
Je pense que
il a construit son truc juste pour ça. C'est ça, il s'est fait un kiff, il a fait un étage où il y a que toi qui peux venir et ton équipe.
Ouais,
dit, tu es le bienvenu. Peut-être que tout à l'heure, puis il dit quelqu'un d'autre, genre Yannick Noah va peut-être passer, Calogero, tu vois. Et lui, il est trop content, il fait des photos. Mais du coup, toi, t'es bien, t'es posé, c'est la première fois que t'es VIP.
Oh putain. Non, mais je pense que ces années sont passées. Il faut regarder les choses en face. On a un âge où, si vraiment tu veux te la jouer rock, c'est maintenant ou jamais, tu vois.
Parce qu'il y a 25, c'était avant.
Mais là,
tu peux
plus trop l'improviser. C'est compliqué de se dire ça. Tu sais, je suis sorti, moi, la semaine dernière. Enfin, j'avais un truc mondain, j'ai fait 20 minutes. 20 minutes, mais sans me forcer. Hein. Je suis arrivé, j'ai dit, vous m'avez vu ? Eh ben, au revoir. Je suis parti, j'arrivais pas. Mais pas parti, genre, énervé. Putain.
T'avais pas envie, quoi. Je sais pas,
ouais, ça passe plus, quoi. J'ai un autre truc. Et de l'autre côté, je veux pas non plus mentir. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas.
Bon, bah cool, on te retrouvera.
J'ai une tête de psycho. Bah, on me retrouvera...
En tournée dans toute la France, là, dès cet automne-hiver, automne-hiver, collection automne-hiver, Tom and Gijol.
Exactement.
Dernière date du spectacle.
L'œil du tigre.
Voilà. Est-ce que tu as participé un peu sur ce spectacle, Barbara? Est-ce que tu as donné un œil extérieur, un avis, un...
Alors déjà, j'ai fait de la régie sur ton spectacle.
Ouais, déjà, c'est énorme. Déjà. C'est énorme.
C'est-à-dire tout le début de ton spectacle, c'est-à-dire que sans mon énergie, tous les soirs, dans ton repassage de chemise, dans l'agençage des bananes, des gingembre confit, des tisanes.
Des gingembre.
Est-ce qu'on peut dire merci, Thomas?
Ah bah oui, on dit merci.
Et dans le petit, comment je toque par la porte, Thomas, c'est bien.
Ouais,
tu vois,
ouais, c'est vrai.
Voilà, donc oui, j'ai participé.
Elle a participé à mon entrée de scène.
Voilà.
Mais elle a participé aussi à tout ce que, si c'est au début, c'est toute la prise de confiance pour que tu puisses affronter un public en disant, voilà, bon, j'ai confiance en moi parce que je suis dans un bon cadre.
C'est traqueux.
Et ah
ouais, complètement.
Et en fait, t'as écrit ton spectacle pendant qu'on tournait Fraté. Et t'as enchaîné à quoi, 2 semaines à la fin du tournage, il a commencé son spectacle.
Incroyable.
Un truc comme ça, franchement. Vous, avec maman, parce que c'est du coup Carole Rocher qui met en scène.
Quel homme. Non, mais c'est. Après, vous écrivez ensemble, vous, tous les deux.
Ouais.
Et combien de temps?
En fait, on écrit.
Combien de temps? Ou combien de temps par jour?
Sur le dernier spectacle.
Oula, je sais pas.
Côte à côte, on a dû travailler 10 jours.
Ouais.
Après, on a mis 10 jours pour tout mettre en place. Mais côte à côte, hein.
Parce qu'on écrit tous les passages.
On écrit un passage par mois pendant 10 mois à peu près, pendant 8 mois.
Et ça, je pense, c'est 3 sessions.
Ouais.
Plus une petite session pour remettre.
Ouais, voilà. Mais
en vrai, ça fait beaucoup.
Ouais, mais ça fait 20 jours d'écriture en tout, vraiment mis bout à bout, quoi.
Oh, je dirais plus deux mois.
Bah, carrément.
Quand même, hein.
Ouais, je voyais ça moins, parce qu'on écrit. Déjà, on discute beaucoup, on écrit très peu.
Mais en vraiment, vraiment, vraiment cumulé. C'est-à-dire que quand tu reprends chaque côté.
Non, on écrit que ensemble. Ok. On discute ensemble, on tord le truc dans tous les sens.
T'as foiré une date sur le dernier ou pas?
Pas foiré de date.
Tu peux le laisser répondre?
T'as foiré parce que tu t'es évanoui.
Ouais.
Une fois où il s'est évanoui, et ça a foiré, quoi.
Ouais, j'ai fait une
attaque de panique. Super, le gars. Moi, tout de suite, j'ai couru, j'ai dit, est-ce qu'on touchera quand même nos droits?
Non, ça dépend.
Bah après, j'ai jamais... En fait, c'est le pire, mais en 15 ans de carrière, j'ai jamais éteint une date. Et là, j'étais en... Mon corps m'est tombé.
Ah, avant la date?
Non, non,
avant,
sur scène.
Sur scène.
Oh merde!
Crise, attaque de panique, et je suis allé à l'hôpital pour prendre mon pouls et tout. Parce que je pensais que j'allais pas.
Et t'as réussi à avoir le recul pour dire il faut que je sorte ou je sors?
Le lendemain, je suis remonté, mais.
On a parlé ici, je crois, c'est Verino qui était là.
Sur l'instant?
Verino, ouais.
Verino était au fond de salle, il me dit ça va, Kian, si tu veux, je monte le temps qu'ils se reprennent, tu vois. Kian, il faut que je sorte. Ouais. J'ai dit, mesdames et messieurs.
Non, j'ai pas dit, il faut que je sorte. Moi, je suis sur scène.
Oui, mais
et je parle avec les gens. Et c'est toi qui monte sur scène. Tu me dis, Ken, si tu veux, tu peux partir un petit peu. Je regarde, je fais, ah bon? Je t'ai appelé, t'es monté sur scène. Et non, ça, tu m'as dit, si tu veux, tu peux sortir.
Ah oui, mais
je suis sorti.
Je suis pas arrivé sur scène. Le gars, le mec est vraiment trop marron. Tout en train de jouer. Et là, le mec se retourne. Il me dit, dis donc. Et moi, j'arrive. Tu vas.
Non, mais j'étais bloqué.
Non, j'étais pas bien. T'as dit, j'arrivais plus trop à parler. T'étais un peu perdu. Tu m'as appelé. Je suis monté. Ouais. Verino m'avait dit, si tu veux, je fais 5 minutes. J'ai dit, mesdames, messieurs, c'était pas prévu. Mais voilà, il est très gentil. Verino, voilà.
Il a fait monté,
et il a fait tout son spectacle.
Ah bah oui, attends, il a tourné sur une bonne jauge, là.
Lui, c'était à l'Européen, je crois. Il a fait tout son spectacle en regardant tout le temps la porte, en disant, à un moment, ils vont me rappeler, c'est con. Ou
tu sais,
il terminait en 5 minutes.
Ah ouais.
Bon, bah alors, la semaine dernière, figurez-vous que j'étais avec ma femme. Et
vraiment,
il a fait.
Je trouve l'anxieux généralisé.
Ouais, d'accord.
Ouais, okay. Ouais. Je me rappelle, les médecins, quand je suis sorti d'hôpital, ils disaient, mais ça va? Ouais. Genre, ça va.
Ah, c'est à vous de me le dire, fallait leur dire.
Je fais, ouais, ça va bien. Ouais,
les médecins, ils sont là, ça va.
Et je faisais des vannes. Je faisais des vannes avec les pompiers, je faisais des vannes. J'étais dans la dynamique de. J'avais l'adrénaline du spectacle.
Okay.
J'arrêtais pas de faire des vannes, en même temps, j'étais genre. C'était vraiment, genre, le cerveau était complètement brûlé, quoi.
Ah ouais, c'est chaud, ça.
Donc, non, j'ai jamais lâché un spectacle, sinon j'ai toujours.
D'accord, non, ok.
Bah, je me mets toujours bien.
Dieu merci, je touche du bois. J'ai juste mis un jour du baume du tigre sur mon cou. Erreur.
Ah ouais, t'as pleuré tout le spectacle?
Non, j'avais oublié parce que j'avais très mal au cou et j'ai fait pas assez tôt. Et à un moment du spectacle, ça a fait...
C'est bien chauffé d'un coup.
Enfin, remonté partout comme ça et j'ai oublié que c'était ça un peu. Je sais pas comment dire. Enfin, je m'en suis rendu compte.
T'as pas fait le lien, t'es là, waouh, mon
suite.
Crâne brûle.
J'ai dit, c'est foutu. J'ai dit, là, c'est foutu.
Je suis en train de faire la WC.
J'ai dit, ouais, exactement. J'ai dit, eh ben voilà, il fallait que ça arrive. tu vas tomber.
Fallait que ça arrive.
Bah oui, non, parce qu'on est, tu sais, on est tous un peu superstitieux. Tu dis, t'es qui, toi, pour faire rire et sortir? Merci. Voilà, tu vas tomber comme une merde un jour, et puis tout le monde, bah, évidemment que ça.
On te le souhaite, en tout cas.
En tout cas, voilà, j'étais avec mon coup de chaleur. Et je sais pas, ça dure peu de temps, en fait. Mais bon, comme tu le sais, quand t'as un moment de trouble ou de solitude ou autre, ça dure très longtemps dans ta tête quand t'es sur scène.
Tu crois, mais en fait, ça dure 30 secondes, mais ouais. Ça...
Non, non, c'était pas très long, mais assez. Mais j'ai réussi à, voilà, à me calmer, à regarder les gens, parce que je crois toujours qu'ils sont au courant. « Hé, il a le cou qui chauffe, les mecs. Ouais, comment vous êtes ?»
Mais c'est inadmissible. Je suis pas venu pour ça, Thomas. Je suis pas venu pour ça. Je t'ai lu les tomates. Il y en a plein, là. Vas-y, prenez les cages de tout.
Mais du coup, non, ça a été. Mais non, sinon, j'ai raté une date. Je me rappelle, sur ce spectacle-là, j'avais raté une date. Parce que tu m'as parlé très vite de ton malaise, mais...
C'est toi qui m'as posé la question.
Non, je parlais si tu avais raté une date.
Quand je dis raté,
dans le sens artiste, où tu n'étais pas assez sorti sur scène, tu n'étais pas...
Non, heureux. Il est trop fort, lui.
Non, mais
désolé.
Non, mais ce n'est pas en comparatif. Hein. Chacun ses émotions.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir raté une date.
Ok. Non, moi, je sais qu'une fois, je n'étais pas... Mais le public n'a pas, s'est pas rendu compte. Hein.
Bah ouais, non, mais
toi, t'es pas dedans. Moi, ouais... Je suis sorti, j'étais déprimé.
Mais après, vraiment ou pas? Parce que moi, en vrai, quand tu dis « j'ai jamais raté une date », c'est aussi parce que des moments, tu sors, t'es dégoûté.
Bah ouais, ça arrive,
je te dis
ouais. «
Quoi ?» Mais pas du tout. En fait, t'étais juste à côté de toi-même. En fait,
oui.
Je te mets dans la salle, les gens, ils ont rien
ouais,
vu.
Ouais, mais c'est ça le truc. C'est quand t'es ouais, à côté de toi-même, c'est suffisant ouais. pour être ouais, raté la date.
Du coup, t'as l'impression d'avoir fait de la grosse merde. Bah, et en vrai, tu sors, tu vas voir les gens, ils font « ah, c'était trop marrant, merci, super ». Et parfois, c'est parce que t'en as fait une excellente. Souvent, il y en a une excellente dans la semaine d'avant.
C'est ça le problème. Ou même la veille.
Ouais.
Même la veille.
Et c'est juste tout à fait normal, tout se passe comme prévu, mais t'es là, tu te dis, mais c'est nul, je pensais que j'avais atteint un nouveau palier, je suis une grosse merde.
C'est ça qui m'a fait un métier de suicidaire, hein. Franchement, c'est n'importe quoi.
Un soir, on arrive dans l'ouest de Paris, que des abonnés, mais 1000 personnes, 1000 abonnés. Je joue, et j'ai un repère, j'ai une blague applause à 4 minutes. J'ai une blague où, dès que je la fais, j'ai une applause.
Ça y est.
Si j'ai pas d'applause...
C'est la déclencheuse.
Là, j'ai rien. Okay. Jusqu'aux 4 minutes, j'ai pas un rire et j'ai pas d'applause. Et je continue. Et dans ma tête, je me dis, répète.
Ouais.
Répète avec des gens.
Ouais.
C'est parti. Allez, on répète avec des gens. Je joue le spectacle. Je crois que c'est le pire moment en termes de retour de salle. Des fois, je m'arrête. Et vu que j'ai confiance en mon ingé son, je sais qu'il n'y a pas un problème de son. Je me dis, OK, il y a un problème avec les gens, mais je sais pas ce que c'est. Et je me dis, bon, bah, ils ont pas aimé du tout. Désolé, tant pis. Standing ovation, 10 minutes.
Ça, je... Ça, c'était
ils ont tout gardé. Ils ont tout gardé pour la
semaine. Non, mais ça, c'est.
Et tu les entendais pas rire.
Ça, je... Non, mais celui-là.
Mais ils ont ri.
Moi, j'ai entendu, ils parlaient entre eux, ils disaient on est d'accord que c'est tellement excellent. On rit pas et on garde tout pour la standing. Faut qu'on tienne cette putain de standing. Et vraiment, ils sont tous mis d'accord.
Non, mais je vois très bien, ça m'est arrivé. Ça, c'est des trucs assez surprenants au début où tu dis ça va être un long désert. Reste pro, c'est pas grave. Et puis à la fin, t'as vraiment.
Not so cow. Not so cow.
Tu dis, ouais, évidemment, mais c'est vrai que toi, tu as vécu. Et en même temps, tu as vécu le truc, en, pas dire en défaite, mais en disant c'est foutu. Mais en même temps, tu n'aurais pas eu cette énergie-là.
C'est possible, j'aurais sous-joué peut-être.
J'aurais sous-joué. Donc,
peut-être c'est une technique qu'ils ont. Ils disent si on veut vraiment qu'ils se donnent à fond, il faut qu'on lâche pas un rire.
C'est la corporation. Là,
c'est que des pervers narcissiques dans le truc, c'est des manipulateurs. Ils sont là, puis on dit rien.
Les municipalités de province qui se coordonnent tous.
Non, mais je pense qu'il y a un biais statistique en vrai. Je pense que ça doit arriver statistiquement, de temps en temps, d'avoir un public composé que de gens comme moi.
Ça,
c'est moi quand je hurle de rire.
Il est hilar. Puis tout à l'heure, il est hilar. Tu sais, il passe un bête de moment.
C'est le plus drôle que j'ai eu toute ma vie. C'est ça ma tête normale. Ça, c'est ma tête quand je suis vraiment jovial.
Ok.
Et du coup, d'ailleurs, moi sur scène, c'est ce que je me dis. Je me dis, je peux pas en vouloir aux gens.
Mais en même temps,
moi, potentiellement être comme moi. Je ne focalise pas trop à ce qui me fait rire.
Ça, c'est vrai.
Alors, quand t'es humoriste, t'adores que les gens se soient les plus grands rires.
Et c'est le truc le pire connard en plus. Mais c'est le temps qui te fait comprendre ça. Parce que moi, si j'ai toi, par exemple, ou ton format, avec le temps, au début, je comprenais pas.
Je force un peu.
Je me dis, mais pourquoi il vient?
Je force, je vais envoyer plus d'applause, j'essaie de faire un peu de bruit parce que j'ai conscience maintenant.
Oui, t'as conscience. Et puis même, t'es acteur.
La personne n'a pas envie.
Au début, entre guillemets, les formats comme toi, je leur en voulais. Je dis, mais pourquoi tu viens au premier rang ou je sais pas quoi et tu me regardes comme ça?
Jamais au premier rang, par contre, je mets toujours au fond.
Évidemment, je te vois au premier rang comme ça.
La balle.
Et je me fais à la sortie. Dès qu'il y a le rideau ou quoi, il faut que je l'attrape. Mais en tout cas, le truc qui est super aujourd'hui avec le temps et puis la confiance, c'est d'avoir aussi des gens taiseux qui rient pas. Et j'avoue que c'est mes petits plaisirs. Tu focalises sur lui pendant le spectacle. C'est des regards, évidemment, pas trop. Mais tu dis, je sais que toi...
Je vais t'avoir.
Ouais, t'es pas le genre de mec, mais vais t'avoir, exactement. Et je sais qu'à la fin, je vais te regarder et que tu vas me faire un petit... tu vois, juste le petit... Voilà.
T'es
et
mon
ça,
champion.
Ça, c'est agréable. T'es mon champion. Surtout quand tu... Entre guillemets, quand t'as grandi, comme beaucoup de gens, t'as grandi comme moi, où, tu vois, il y a toujours le cliché du mec drôle dans le quartier. Ah, ça n'existe pas tellement. Il y a des mecs drôles, mais c'est des personnalités, pas de comiques. Et pour être très drôle en communauté, en quartier, il faut être aussi un peu respecté. Parce que sinon, si c'est juste drôle, tu vas te prendre une méchante tarte un jour. Il y a des mecs qui n'ont pas... Non, mais c'est comme ça que ça marche. Et mec, moi, je faisais rire tout le monde. Viens, 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 même à Maison Alfort, tu vas t'en prendre une. Mais c'est pas grave. Mais ce que j'aime, c'est de voir...
Le monde de la violence.
Non, mais c'est vrai, mais c'est ça qui forge. Et moi, ce que j'aime, c'est voir des mecs, tu vois, du vécu sur leur gueule. Tu sais que déjà, lui, aller au théâtre... Sa meuf, elle dit, mais viens, on fait un petit... Elle m'en bat les couilles, vas-y, elle dit, moi, je sais pas, va, vite fait, vas-y, il me fait gollerie, vas-y, on y va, mais bon. Vas-y, je rigole pas, moi, t'as eu leur truc, là, je m'en bats les couilles. Et tu le vois, il est comme ça.
Ça lui fait un peu mal de rire.
Ouais, il fait, là, je dis, petit... ouais, franchement, ouais, mais bon, je veux pas trop. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs, je les adore, quel que soit le format. Mais ce truc-là, c'est parce que ça me reconnecte en fait à ma jeunesse, au mec avec qui j'ai grandi. Tu sais, les vrais durs, quoi, qui trichent pas, pas les durs. On n'est pas dans le showbiz, on est dans les. Un mec qui. Voilà, mais il a fait la démarche. À partir du moment où il fait la démarche, c'est à moi après de faire le goût. Voilà.
Une fois, premièrement, j'ai eu un gars comme ça. Sa copine. Et c'est en rodage. Et je lui dis, ça va, mec, t'as pas rigolé pendant le spectacle et tout. Il fait, non, c'est bien.
C'est bien, non, c'est bien. Peut-être qu'il voulait pas être là. Il était dans sa...
et en fait, sa meuf m'avait écrit le lendemain. Elle m'a dit, ouais, je suis au premier rang.
Pas de soucis, je l'étège. Wow. T'inquiète pas, Kian, je l'étège.
Elle me dit, non, voilà, il veut être humoriste. Et en fait, il a trop adoré. Il était émerveillé, quoi.
Ah, ok.
Comme ça, été,
c'est ça l'émerveillement. Ah, comme moi, quoi.
Parce que sinon, il fallait lui donner le lien de Barbara aussi à sa copine en dessous. C'est les premiers signes d'un spectacle où ton mec ne rigole pas. Attention, tu yes. vois, tu y vas, le
il
mec.
Il est jaloux d'un ah, là, mec sur jaloux. Scène. C'est bizarre d'être jaloux d'un mec sur scène.
Pas super, hein.
Il y en a des jaloux. Il y a des jaloux, ouais, des gars, les marrants de la bande, ils sont un peu jaloux des fois quand ils sont 8. Ouais. Ils disent, bah merde, il y a un mec plus marrant que moi.
Mais là, ça devient, là, c'est pathologique. Tu peux
non, tu vois pas, c'est sûr que t'en as eu. Tu sais, quand t'as le petit malin de la bande oui. et tu sens que lui, il est un peu vénère contre toi, parce que d'habitude, dans son groupe, c'est lui
oui,
le mec
c'est
marrant.
Lui le...
Là,
ouais.
c'est toi le mec marrant.
Ouais, ouais, je vois.
Tout le monde qui le regarde en faisant, il est plus drôle que toi.
Parce que des fois, il y a aussi le petit. Il veut aussi jouer, quoi. Il veut aussi être présent, il veut intervenir, il veut trouver un petit moment, tu vois, pour... Pff, ouais, ça c'est... Mais là, il met les choses à leur place magnifiquement, en fait. Franchement, c'est ça que j'adore dans le fait de vieillir, si on peut dire, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai 44 piges, je vais en avoir 45.
T'es indulgent, en fait, maintenant. Bah, ouais, tu comprends.
T'es indulgent, tu regardes avec bienveillance.
Tu prends pas perso.
Voilà.
Prends, comme si,
et puis, quelque
ça.
Part, il doit te donner du respect parce que toute la salle te respecte, en fait. Tu vois, t'es pas le petit jeune, tout le monde te respecte. Donc, tu te dis, bon, c'est pas grave. Fais ton truc, allez. Ça va. T'as envie de le caresser et dire, c'est pas grave.
Barbara, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie?
C'est ma petite maman qui me l'a donné.
Ouais.
Et c'est on s'en bat les couilles.
J'adore.
Voilà.
C'est-à-dire, maman, j'ai eu 3 sur 20.
Alors, à cette époque, elle se retenait. Après coup, elle a pu me le dire. Ouais, en vrai, c'est bon, regarde, t'as réussi, mais on s'en bat les couilles. Mais quand tu te prends trop la tête, tiens, faut qu'on s'en bat les couilles, viens, on va rigoler, et puis c'est tout. Et puis voilà.
J'adore. Thomas, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Non, je sais pas, ça connecte un peu, forcément. Peut-être, je sais pas, le meilleur conseil, c'est sûrement lié à mes parents.
Copier.
Ça va être sa mère qui lui a dit on s'en bat les couilles.
C'est pas le style de ma mère, mais non, c'est peut-être mon père. Hein. Peut-être mon père, hein. Franchement, c'est sûrement mon père. Mais je pense pas avoir de phrase toute faite en fait. Je pense avec du recul, maintenant que je suis bien adulte vacciné, qui m'ont appris à être un mec bien quand même, a été un mec gentil. En fait, j'ai pas été trop insufflé de haine et de merde, en fait. Donc, ouais, je pense que le meilleur conseil, et je pense que ce que je m'efforce d'ailleurs même à donner à mes enfants, même si mes parents l'ont donné à leur façon, je pense que c'est lié à l'amour, en fait. Hein. Je pense que c'est ça, en fait. Ils m'ont pas trop mis dans la sauce au niveau de la rage et de la haine. Donc,
t'ont beaucoup aimé.
Ouais, ouais. En tout cas, je dirais que, bien sûr qu'ils m'ont aimé, mais je pense que surtout, il n'y avait pas un truc, je ne sais pas comment dire, en trop en opposition aux gens ou en opposition à des comportements, trop en... Il y a un truc de, malgré tout, un truc de bien-être, en fait. Tu vois, de bien-être et tout. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça. Après, j'ai pas trop de... Je sais pas, j'ai pas comme ça une évidence de meilleurs conseils.
D'accord.
J'ai pas une évidence de meilleurs conseils. Ça connecte juste à... Quand je pense à ça, je pense à mes enfants, je pense à moi, je pense à mes parents. Il y a un truc qui rebondit et je me dis, le lien, c'est
c'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à un jeune humoriste, par exemple?
Ne faites pas ce métier.
On est déjà trop nombreux.
Ne faites pas ce métier. Déjà, on est trop nombreux. Un jeune, aujourd'hui, enfin, surtout que la donne n'est plus du tout la même qu'à une époque, je sais pas. Mais après, c'est d'écouter, ça paraît fleur bleue, mais écouter son cœur et son beat, quoi. Tu vois, si ton bide, moi je sais que j'ai jamais voulu être humoriste, moi. Je commençais à faire des cours d'impro, de théâtre, et je voyais des humoristes déjà à l'époque qui perçaient, qui faisaient des trucs super. Et jamais de la vie, je me suis dit, oh, je veux plus être drôle qu'eux. Je les regardais avec respect, admiration.
T'as réussi.
Non, bah merci, mais non, enfin en tout cas,
d'être moins drôle que ça.
Ça a été prouvé plusieurs reprises. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, je me suis rendu compte au théâtre que j'étais bloqué à raconter des trucs dont je m'en battais les couilles, quoi.
Donc t'as pas voulu être humoriste, puis après t'as trouvé comment faire. T'as cherché ce qui te plaisait.
Ouais.
Et ça a été avéré que c'est être humoriste.
Ça a été cette voie-là, ouais, parce qu'en fait j'avais trop de trucs dans le bide.
Peut-être ouvre ton ça.
C'est exactement.
Parce que le conseil, c'est un peu ouf ton éventail. T'es pas obligé d'être un stand-upper. Ça se trouve, tu vas kiffer, être chanteur.
Ouais,
ou être,
tu fais ce que tu veux. Écoute ton cœur et ton beat, quoi. Stand-upper et tout, ça veut tout et rien dire. Et puis en plus, tout est écrit.
C'est intéressant parce que tu vois, on peut avoir tendance à aller vers ce qui semble le plus
efficace.
Ouais, le plus à la mode à ce moment-là, mm-hmm. sans se dire, mais en fait, c'est un genre très serré,
ouais.
dans un éventail de possibilités de comédien et de,
mais complètement.
De métier de la scène. Et de,
complètement, ouais. Mais c'est clair que ça, t'as raison quand tu dis ça, parce que évidemment, tu peux toucher à. Voilà, tu peux monter sur scène et te rendre compte que cette forme-là ne te correspond absolument pas, que t'as besoin d'être dans un truc plus cadré, plus classique.
Ça, moi, j'ai vu des humoristes qui ont compris qu'ils aimaient être auteurs.
Complètement. Ouais, mais il y en a. C'est comme de manière, des humoristes ne sont pas forcément des bons comédiens, inversement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui incarnent, ça devient magique. Il y en a qui font que parler et c'est très bien. Enfin, inversement, tu vois, s'il y a des mecs qui n'incarnent pas pendant un spectacle, tu dis putain, qu'est-ce que c'est pour rire. Donc, je sais pas, il faut écouter son bide, en fait. Tu vois, on s'abreuve de tellement de choses. Et puis, la vie est. Enfin, je sais pas, j'ai presque envie de dire que nous, quand on choisit ce chemin-là, c'est pas une mode, évidemment. C'est une envie claire. C'est une envie claire de s'exprimer, de lâcher un truc. Et aujourd'hui, ce que je note, et j'en viens à la génération de Barbara, l'éventail, il est très large, quoi, d'un point de vue...
Ouais, parce que c'est vrai que toi, tu fais quand même partie de la génération où tu t'es pas lancé dans le stand-up parce que c'était à la mode.
Ah, pas du tout, non.
Il n'y avait rien.
C'est ouais. La prise de risque totale, c'est ultra dangereux, c'est même quasiment perdu d'avance, presque, j'ai envie de dire. Mais t'as envie, parce que comme je te dis, je savais déjà que ça existait, je connaissais tout, mais à un moment donné, j'étais au théâtre, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là à raconter des choses qui... Et en même temps, c'est le moment où tu commences à prendre du recul sur toi-même, sur ta vie, sur ton entourage, à dire, mais je vis quand même des trucs assez drôles, atypiques, tu vois, j'ai jamais été... Enfin, j'ai horreur de ça, même le côté « Ah, moi, dans mon quartier, machin, je m'en bats les couilles. » Et comme je te dis, le truc de quartier, c'est...
On rejoint quand même...
Oui, c'est ça. Ouais, et puis, on revient à la théorie de « Je m'en bats les couilles », mais c'est ce qui a marqué sur notre boîte à lettres.
C'est le nom de la prod, d'ailleurs.
On s'en bat les couilles. Voilà. Mais du coup, non, vraiment, il y a un truc... moi, j'aime, voilà, la dureté de la vie, la beauté de la dureté. Quoi,
mais la sincérité.
Ouais, la sincérité, la vérité de la vie. Donc... comique, pas comique, chanteur, tout ça. Voilà, c'est comme si on nous disait est-ce qu'on traîne contre comique ou quoi.
Sauf la chenille, par contre.
Non, il y a plein... Enfin, le champ des possibles est incroyable. Et comme l'a dit Barbara, l'important, c'est d'écouter... La chanteuse aussi, tu sais qu'elle chante super bien.
Ah ouais,
ouais. Mais elle va pas le faire, là. Non,
allez, fais-nous une chanson.
On aura l'occasion d'aller écouter un projet, un truc comme ça, un jour.
Jamais, je pense.
Le projet Barbara, là.
Ah, pas...
je fais des... Si, j'ai chanté pour le générique de notre film en Corse.
Ouais. Elle a chanté. Et puis, tu as chanté à d'autres occasions familiales. Elle chante super bien.
Oui, pour ma grand-mère.
Elle chante, elle a une voix magnifique. Tu te rappelles, tu avais un nom de chanteuse? Plus jeune,
Barbara Angel.
Barbara Angel, elle s'appelait. Voilà, ça, y a pas. On attend toujours star, on attend toujours le premier projet, quoi, qui n'est pas arrivé. Mais elle chante super bien, Barbara, vraiment. Elle a... Non, de, comme je dis, dans les réseaux et dans la vie, l'avenir lui appartient, quoi. Elle, elle peut faire. Et c'est ça qui est chouette avec les jeunes, c'est qu'ils peuvent faire plein de choses. Là où nous, on se posait plein de questions à se dire, mais est-ce que je sais pas un peu trop? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que eux, ils s'en battent les couilles. Ils y vont et puis ils ne se prennent pas tant la tête que nous parce qu'ils sont décomplexés de plein de choses que nous, voilà, on est les enfants aussi d'une époque, eux, c'est les enfants d'une autre époque. Et ces petites sœurs, bon, alors là, ça va être le produit fini. Quand ces petites sœurs vont arriver et leur génération, ils vont tout ravasser, ils vont tout, tout déglinguer. Après, Inch'Allah, la Terre n'aura pas explosé d'ici là.
Après, on a d'autres problèmes quand même, notre génération.
Ouais, en gros, intérêt, vous avez tous les combats qu'on vous a laissés, genre. On a fait, ouais, l'écologie, on était là, oh là là,
oui,
oh là là.
C'est ça, tous ceux, flemme.
J'aime bien Greenpeace.
Voilà.
Non,
vous arrivez, vous dites, bon, quand même, ça crame un peu.
Ouais, il y a un petit problème, là. Puis il y a des gens qui sont malheureux aussi.
On va terminer l'émission par une recommandation artistique. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez recommander artistiquement? Une personne, un artiste, jeune artiste, peut-être une rime, un morceau que vous avez mis, un film,
moi, picture, Barbara Angel, moi je...
Barbara Angel.
Sur Spotify.
Un jeune artiste, une jeune artiste.
Un jeune artiste.
Un stand-upper, peut-être.
Non, bah galerie. Écoute, je ne sais pas quand tout ça va être diffusé, mais je sais qu'il y a mon ami musique, d'ailleurs. James Beckes, avec qui j'ai travaillé, qui je vais retravailler, et qui est un musicien très talentueux, qui se développe de plus en plus, qui fait des super morceaux. Je ne sais pas si c'est indé ou pas pour le moment, mais il est dans une vibe un peu afro-hip-hop.
D'accord.
Voilà, il chante en anglais, il est francophone, il a vécu aux États-Unis aussi. Donc voilà, mais quand il a vécu, c'est-à-dire qu'il est, il parle couramment anglais, hein. c'est pas du franglais, type l'album MP3 de Matt Pokora qui avait des qualités, mais on sentait l'accent français. Vous avez le droit.
En même temps, c'était son troisième album.
J'adore vos rires.
C'était Matt Pokora 3, c'est pour ça que ça s'appelait
MP3. MP3, il s'appelait, à la sortie du fameux MP3.
Mais parce que c'était son nom, MP
3. Ouais.
C'est comme si toi tu faisais TN
3.
Mais c'est déjà
moi j'ai ma paire de points. On peut pas tout avoir. Enfin voilà, en tout cas, James Beckes a un nouvel album.
Ok.
Et il est super.
Allez streamer ça.
Voilà.
Barbara, est-ce que t'as quelqu'un à recommander?
Ouais, je sais pas, vas-y.
Est-ce que j'ai quelqu'un à recommander?
Je vais en tourner, je fais le Rex.
Je pense que les gens ont compris.
Ouais,
je pense que ça va.
Je peux faire le grand Rex.
Ils vont pas venir. C'est déjà complet là.
C'est vrai en plus.
Je l'ai tweeté, c'est bon.
Ouais, c'est complet. Merci encore. Mais quand même, acheter des places.
C'est la famille.
J'ai une amie photographe.
Ouais, vas-y.
J'aime beaucoup ses photos et les sacs qu'elle fait.
Elle a un Insta, un truc comme ça.
Ouais.
Ah oui, je l'avais rencontré, absolument. Absolument.
Qui fait mes sacs.
Ouais. Bah montre-moi. Tu peux le montrer.
Elle les fait elle-même en plus.
Ah, mais en plus, je pensais que c'était des sacs qui avaient un rapport avec la photo. Mais non, elle a deux talents.
Elle a deux super talents. Donc elle fait photographe, c'est Melly Hirtz. Et elle fait des sacs qui s'appellent la marque Waym.
Melly Hirtz. Allez voir un peu.
La marque s'appelle comment? Waym.
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 Navo, t'as quelqu'un à recommander?
Non, j'en peux plus. Ça fait 6 émissions.
Tu peux plus recommander.
C'est bon, je sais plus quoi recommander.
Vincent Delerme, que t'aimes bien?
Bah, Vincent Delerme en général, on adore. Allez,
t'aimes bien Vincent Delerme, c'est vrai?
J'aime beaucoup Vincent Delerme. Toi, l'es déjà venu dans l'émission, ce qui est une forme de recommandation en soi.
C'est vrai.
On peut recommander tous les invités d'un bon moment.
J'aime bien Vincent Delerme.
Je recommande le travail de Guillaume Grandot Soupakic, qui est un artiste contemporain.
Soupakic?
Et Coralie, ouais, Soupakic.
Guillaume?
Guillaume Grandot.
Ah, c'est une autre personne, Soupakic.
Guillaume Grandot, c'est son nom, son pseudo, c'est Soupakic.
Ah, ok, autant pour moi.
Et Coralie.
Tu vas faire chier tout le monde.
J'essayais de comprendre, d'un coup, il avait un nom complexe.
Leur travail artistique est formidable, c'est des gens géniaux, je les connais, en plus, ce sont des amis, donc je suis très, très content de leur dire qu'ils font du travail formidable. Voilà.
Soupakic.
Vous voulez rajouter quelque chose, les amis?
Moi, je recommande Selon Thomas, quand même.
Ah oui,
sur MyCanal, là.
Ouais, c'est toujours
sur MyCanal. Selon Thomas.
Je pense qu'on peut le trouver toujours sur MyCanal.
Bien sûr, c'est toujours.
C'est très marrant.
Merci. L'année prochaine.
C'est chaud de toi.
Ouais, l'année prochaine, Inch'Allah, on fera.
Troisième.
Ultima. Comment on finit avec les trois? On appelle ça.
Trilogie,
une collection, une saga.
Non,
Loulou.
Le terme, comment il s'appelait?
Triptyque. Loulou.
Orelsan, épilogue.
Épilogue. Donc l'année prochaine,
épilogue
avec Selon Thomas.
Selon Thomas, épilogue, voilà. Mais
Tu l'as. Écoute, on a hâte de ça parce que c'est de la bonne qualité.
Ouais, c'est des bonnes respirations. Voilà. Mais c'était un plaisir d'être avec vous, les amis.
Ça vous a plu?
Bon, ouais, passé un merci
bon
moment. Beaucoup.
C'était un bon moment.
Si vous voulez rajouter quelque chose, j'espère que je vous ai pas coupé la parole. Ou...
Pas du tout.
On va refaire une sans Thomas, moi, je propose.
Ok.
C'est méchant. Est-ce que des fois, vous faites un final un peu piano hein, ou c'est juste de la déco?
Non, c'est un studio, en fait, ici.
Ok.
Ça serait bien, c'est la déco, vraiment, on se casse la tête à mettre un piano et tout pour la déco.
Non, mais ça serait bien des fois de finir un peu à la Charlie Oleg.
On a eu Vincent Delarme qui a fait le générique. Le générique d'un bon moment, comme ça, en impro.
Moi, j'aimerais bien finir un peu en Charlie Oleg à l'ancienne. Hé, vous rappelez Charlie Oleg?
Vas-y.
Génial. Hey,
vas-y, Thomas, fais-nous un.
Bah non, je ne vais pas jouer, c'est un de mes drames. Mon père, il voulait me mettre au solfège.
C'est ça qui va être chambé.
Non, ça va être.
Laisse parler ton cœur, je suis sûr que tu vas trouver.
Bah, je préférais finir avec une chanson.
Bon, allez, on va terminer au piano.
Un bon moment.
Car Kian, lui, c'est en jouer.
Toi, tu joues au piano et si tu veux, je fais une impro pour finir, Kian.
Je te fais un peu de mélancolie.
Ouais, mélancolie, comme ça, t'es pas dans un tempo rapide.
Ton micro par là.
Et Barbara, elle fera les chœurs.
Ah bon?
Ouais, tu feras un petit houhou.
Ok.
Nous étions deux en venant. Nous avons fini quatre en partant. Kian, Navo, votre invitation nous a touchés au plus profond. On nous a vendu un bon moment. Nous partons avec un moment charmant, éternel et émouvant. Et je répète une dernière fois que je joue le 14 et le 15 au Rex et que je suis en tournée dans toute la France.
Et voilà, c'était un bon moment.
Des gens.